Belle équipe du soir, bonsoir, ravi de vous retrouver. On parlera ce soir du résultat de l'Olympique de Marseille qui s'est incliné face au Benfica à Lisbonne. On parlera aussi de Lille. On reviendra sur le match de Kylian Mbappé lors de la rencontre de la défaite parisienne face au FC Barcelone. Une grande et belle soirée nous attend et un casting 5 étoiles. Le président n'est autre que le président à vie de l'équipe du soir, Didier Roustan.
Rien que ça.
Bonsoir. Rien. C'est élégant ce soir.
Oui, tout comme Pavarotti, tu vois, je protège un petit peu ma gorge. Parce que quand tout partira.
Wow. Là, c'est pas lui. Quel organe.
Alors là, ah, oui. C'est le monsieur qui voit pas bien, enfin qui est aveugle, peu cher. Hein,
Andrea Bocelli.
Ouais. Il faut rester, chers téléspectateurs et téléspectatrices, parce que je pense que Didier Roustan va être chaud sur le thème Mbappé. Alors, dans votre
parler,
club ce soir, le rire de l'équipe du soir, on est toujours ravis de l'avoir, Olivier Rouillet. Bonsoir, Olivier.
Bonsoir, Joe.
C'est le Joker.
Vous êtes fait beau aussi, vous êtes bien coiffé.
Oui, non, mais c'est ça, voilà. C'est ça, mais j'ai vu des photos qui m'ont... Ah Virginie, oh pardon.
Pardon, rien. Mais qu'est-ce que c'est que
mais
ça?
Mais non, ça m'a mis en joie.
Allez, c'est notre sélectionneur.
Attendez, mes parents regardent.
Pardon.
Faut pas insinuer des choses comme ça.
Mais je ne dis rien, moi.
Marouille, voyons.
Si ça vous dérange pas, on va aussi, on n'a pas de problème.
Faites donc.
Bonsoir, notre cher sélectionneur. Ça va, Raymond?
Bonsoir, tout va bien.
Comment vous sentez nos clubs français?
Pas trop mal, finalement.
Pas trop mal. On en reparlera.
On a connu des huitièmes ou des quarts plus compliqués.
Plus compliqués, c'est vrai. En face de vous, c'est le biker de l'équipe du soir, Philippe Sansfourche. Bonsoir, Philippe.
Bonsoir à tous. Je suis content parce que Raymond est satisfait. On est à 3 défaites dans 3 matchs des clubs français.
C'est pas les mêmes défaites.
Ah, le contenu est important.
Vous écharpez pas, on aura le temps d'y revenir. Et pour compléter ce merveilleux casting, c'est la fouine de l'équipe du soir, Benjamin Quarez.
Bonjour, bonsoir. Et je suis bienvenue ici, je suis très content d'être là. Et notre degré d'ambition, je vois, est de niveau zéro.
Bon, voilà. Très bien. Zéro. On essaiera d'en reparler tout à l'heure aux infos. C'est la magnifique, la brillante Alicia Keys, Queen V, Virginie Sicily.
La totale, bonsoir. Salade Thomas d'oignon, ketchup mayo.
Moi, je suis comme ça.
On mélange tout.
Allez. Les gens attendent ça, les images du match entre l'Olympique de Marseille et Benfica.
La défense marseillaise a cédé dès le premier quart d'heure. Balerdi se manque. Tengstedt trouve Rafa Silva à l'entrée de la surface. Le petit pointu pour ajuster Paul Lopez. Et les Portugais ouvrent la marque. Le mauvais sort se poursuit. L'OM perd Quentin Merlin juste avant la pause. Son genou a tourné sur cette intervention. Le milieu de terrain sort sur Sivière. Le but du 2-0 part d'un contre éclair. Di Maria trouve Neres à droite. Il lui remet le ballon en retrait. L'ancien Parisien enfonce les Marseillais. Aubameyang les remet dans le coup à la 67e. Sur une belle passe en profondeur d'Amin Harit, le Gabonais ouvre son pied au dernier moment pour tromper Turbine. Benfica l'emporte 2-1.
Merci beaucoup, magnifique. C'était parfait, toujours.
Tu étais un peu en retard au niveau ouvre son pied, ça fait 20 secondes qu'il a ouvert son pied.
Oh Didier,
c'est pas possible.
C'est magnifique ce qu'elle fait.
Mais c'est très bien, mais ça fait 10 minutes qu'on est sur elle, ouvre son pied.
C'est l'exigence du très très haut niveau. Allez,
je te taquine. Oh, le cœur, ne nous fais pas une jolie coupe.
Ou une Eric Blanc, on l'embrasse d'ailleurs. Alors, Marseille peut-il nourrir des regrets ce soir? Habillage à la Marseillaise. Toujours bien d'entendre Jump quand même. Philippe Sansfourche.
Ah non, c'est un don du ciel, ce troisième pas.
Un don du ciel, comme il y va. Benjamin Quarez.
Non.
Pas de regret. Olivier Rouillet.
Bah, j'ai presque envie de vous dire oui quand même, moi.
Et vous allez me dire oui.
Bah oui, je vais vous
rêvez
dire
de me dire oui. Raymond Domenech.
On va faire 2-2, hein. Moi je dis oui aussi. Oh, ils peuvent avoir des regrets.
Très bien. C'est un super duel royal.
On commence bien.
Président, je vous laisse bouger votre museau pour appeler Jingle. Allez, 3. Magnifique, la régie.
Je n'ai pas entendu ce jingle, je deviens sourd.
Mais non. Donc, j'ai le camp des noms avec Philippe Sansfourche et Benjamin Quarez. Qui va prendre la main dans ce super duel?
J'attaque.
Il attaque. Oh là, il est déterminé, notre biker. Et j'ai le camp des oui avec Raymond et Olivier. Qui commence?
Je commence.
Ah, bon, pas le choix. Voilà. Non, est-ce que la régie est prête? J'accouille, on est comment?
Entre nous, hein.
Magnifique. Non, pas de regret. À vous, Philippe Sansfourche.
Bah, je crois que l'OM, sur sa prestation du soir, aurait pu en prendre 3, il aurait pu avoir 3-0, ça aurait été tout à fait logique. L'OM n'a rien montré, l'OM pendant 60 minutes n'a pas été capable d'aligner 2 passes. On a un déchet technique qui est hallucinant à ce niveau-là, que j'ai jamais vu dans l'histoire de ce club, c'est-à-dire que ce soit Harit, même Ndiaye qui rentre, on a l'impression qu'il est claqué alors que ça fait 5 minutes qu'il est rentré. Les ouvertures, même Veretout, qui est quand même une valeur sûre. Pour moi, le niveau technique, il est affligeant et il n'y a rien à redire.
La réponse d'Olivier Rouillet.
Alors que le niveau technique soit affligeant pendant un certain temps, je suis tout à fait d'accord avec Philippe, mais malheureusement pour lui, du moins pour Philippe, et pas pour les Marseillais, c'est qu'à la 60e, il y a eu quelque chose du renouveau. C'est arrivé avec le but d'Aubameyang, et ensuite, dans le dernier quart d'heure, on sent vraiment que les Marseillais sont tout à fait capables de marquer. Alors ils ne le réussissent pas, c'est le seul petit regret que j'ai, mais en tout cas, ils ont tout fait pour essayer d'amener cette différence, d'amener ce plus qui leur permet d'avoir encore plus d'envie et plus de chance pour les matchs retour.
Pour lui, il n'y a pas de regret, c'est Benjamin Quarès.
Ah si, je n'ai pas de regret, effectivement, parce que pour avoir des regrets, il faudra avoir attaqué le match correctement. Et ils ont attaqué le match à l'envers. Ils n'ont pas mis l'intensité qu'il fallait. Effectivement, le déchet technique était criant sur ce match. La première mi-temps, pour moi, elle a effacé. La faute est complètement ratée. D'ailleurs, le coach à la mi-temps a changé certaines choses qui n'avaient pas eu de fonctionner défensivement. Offensivement, ils trouvaient attaquant à un contre-temps pendant beaucoup trop longtemps. Et finalement, ils sont bons sur la dernière demi-heure parce que Benfica aussi le week-end dernier a eu un match très important à jouer avec une grosse débauche d'énergie contre Sporting. Et je pense qu'il faut aussi le mettre en perspective par rapport à ça. Sur toutes ces conditions-là, je pense que le match de Marseille est globalement raté, qu'il n'y a pas de regret à avoir. 1-2-1, c'est plutôt un bon résultat.
Attention le temps, Benjamin. Attention, ça sera peut-être carton. Raymond Domenech.
Moi, je reprendrai leurs arguments, justement. Ils peuvent avoir des regrets parce qu'en étant tristes comme ils l'ont été au niveau offensif, alors qu'ils ont eu des situations pour ressortir des possibilités énormes de s'ils avaient bien joué les coups. Je veux dire, et comme tu le disais, le déchet technique qu'ils ont eu est invraisemblable dans un match pareil. Donc ils peuvent avoir des regrets en se disant, avec un peu plus de justesse, ce match, ils pouvaient même le gagner. Parce qu'il y avait des boulevards et ils n'ont pas été franchement en danger. Il y a eu des situations chaudes, mais il n'y a pas d'arrêt de gardien de but, il n'y a rien de particulier, ils ne sont pas en difficulté.
C'est terminé. Raymond, donc pour voter pour ce super duel, si vous pensez que l'Olympique de Marseille peut nourrir des regrets, c'est pour la paire Rouillet-Domenech. Si vous êtes opposé à cette idée, c'est pour la paire Quarez-Sanfourche. Vous allez sur l'équipe Connect pour voter. Maintenant, on attend ça avec impatience, l'arbitrage du président Roustan.
Alors, bon, c'est vrai qu'on peut être tolérant parce qu'ils ont tous les malheurs du monde. Encore peu cher Quentin Duval.
Merlin.
Oui, Quentin Merlin.
Quentin Duval.
Pour rire. Quentin Merlin qui se blesse au genou. Et puis ça,
on souhaite un prompt rétablissement.
Ouais, j'ai peur que ça soit assez grave avec tous ces blessés, ces joueurs qui sont un peu en manque de compétition, etc. J'ai trouvé Benfica décevant et malgré tout, il me semble que ce 2-1 est un poil flatteur. Enfin, c'est un cadeau, le but à Aubameyang. Quoi. C'est incroyable.
Le raté de Silva.
Le défenseur, c'est incroyable ce qu'il fait. Après, c'est vrai que c'était un peu mieux, mais c'est une équipe de briques et de brocs. Et pouvoir jouer au Vélodrome avec seulement un but de retard, puisque bon, il n'y a plus d'histoire de but extérieur. Alors, s'il y avait les buts extérieurs, c'était encore... c'était Byzance. Je trouve que, voilà, somme toute, c'est vrai que Benfica n'a pas été non plus, voilà, je le dis, très, très flamboyant, une victoire de, hein, enfin voilà, c'est des regrets, non.
Très bien.
Sinon, on a toujours des regrets, bien sûr.
Donc, point pour la paire Quarez.
On va aller de l'avant maintenant, ouais. Monsieur Rouillet.
Philippe, par rapport à ça, parce qu'on l'a entendu, ça a été dit, c'était pas un grand Benfica. Ce côté-là, ça ne vous laisse pas un peu de regret ?
C'était pas un grand match. Déjà, on parlera tout à l'heure de Lille, mais c'est vrai que quand on confrontait les deux...
Restez bien avec nous pour les images de Lille-Aston Villa. Ça, c'était un grand match de
Coupe d'Europe. Les deux parties, on n'avait pas l'impression que la petite Coupe d'Europe, c'était celle de Lille-Aston Villa. C'était plutôt l'inverse. Donc Benfica a pas été flamboyant. Mais encore une fois, les regrets, tu peux les nourrir quand... Raymond évoquait les sorties de balles nombreuses où il y avait des possibilités. Tu peux nourrir des regrets si,
les espaces,
sur l'ensemble de ta saison, sur les matchs précédents, tu as montré que tu étais capable de convertir ces situations-là. Or, en fait, non, ça va de mal en pis. C'est-à-dire que la saison de l'OM, plus elle avance, plus elle démontre les carences. Alors, il y a, on est bien d'accord, des absences qui sont notables. Et c'est à mettre, évidemment, au crédit global de Jean-Louis Gasset et de son staff, parce qu'il y a un moment où tu peux difficilement travailler dans ces conditions-là. Mais à part Veretout sur certaines périodes où tu vois qu'il a quand même un bagage, et Aubameyang qui, avec peu de choses, heureusement que Aubameyang est là. Mais encore une fois, il y a tellement de carences techniques, parfois sans aucune pression. Les ouvertures, c'est pas de 2 mètres qu'elles sont ratées, c'est de 10 mètres.
Oui, mais on a compris, déchets techniques pour Philippe Sanfourche. On va prendre la direction de Lisbonne, puisque Candice Roland a suivi la rencontre avec nous. Elle est accompagnée de Corentin Roland. Est-ce que pour vous, il y a des regrets ce soir pour l'Olympique de Marseille ? Bonsoir Candice.
Oui, bonsoir. Oui, il y a des regrets. Peut-être pas la première période. Vraiment, je pense que comme vous tous, j'ai été assez catastrophée de cette première période. Et finalement, à 2-0 en début de deuxième, je disais que c'était plutôt logique. Mais finalement, justement, avec toutes ces carences que vous évoquez, toutes ces ouvertures complètement ratées, ces passes en profondeur qui n'allaient pas, parfois les joueurs aussi, qui gardaient un peu trop le ballon, qui faisaient la touche de trop. Eh bien, malgré tout, des regrets. Pourquoi ? Parce que Benfica n'a pas enfoncé le clou. Benfica a peut-être un peu levé le pied à un moment. Et Marseille, eh bien, est revenu, commence à continue à y croire. Il y a une énorme occasion aussi d'Amin Harit à un moment au deuxième poteau. C'est pas un match où il y a eu beaucoup d'occasions des deux côtés. Mais finalement, c'est plus sur la deuxième période, peut-être même la dernière demi-heure, où il peut y avoir des regrets avec un Olympique de Marseille quand même qui a changé 4 ou 5 fois de défense. Il y a eu des repositionnements, des changements tactiques aussi. Voilà, la blessure de Quentin Merlin. Malgré tous ces rebondissements, eh bien Marseille n'est pas largué. Et il y aura de l'espoir évidemment en vue du match retour. Donc des regrets parce que finalement, il y a peut-être une petite ouverture et que Marseille n'a pas su en profiter. Mais Benfica derrière n'en a pas profité non plus. Et si André Di Maria a été encensé après son but, il a été sifflé à la fin, comme les joueurs au coup de sifflet final. Les supporters n'ont pas aimé, voilà, la dernière demi-heure de leur équipe.
Oui, mais Candice, je veux dire, elle a des papillons partout sur le corps. Je veux dire, elle est amoureuse, donc elle positive à l'extrême, quoi. Tu vois, non, on redescend sur terre. C'est formidable, la grande histoire d'amour que tu vis en ce moment, mais bon, quand même, Candice, je sais que ça rend aveugle, mais bon. C'est
l'amour rend aveugle, vous croyez?
Oui.
On peut être optimiste et voilà.
Allez-y, Candice.
Non, mais des regrets parce qu'on est optimiste.
Mais les papillons, trop.
Oui, mais
de papillons.
Des regrets aussi parce qu'avant le match, on veut croire au discours des Marseillais parce qu'ils disent qu'ils sont transfigurés, transcendés par la Coupe d'Europe. Clairement, en première période, ils n'étaient pas du tout au rendez-vous. Non. Un peu mieux en deuxième, peut-être aussi parce que Benfica
voilà,
a le
tu redescends sur
mais
terre.
Mais voilà, j'ai quand même quelques regrets temps, en se disant que.
Il n'est pas si beau, ton mec. Tu vois,
qu'il y avait quand même quelque chose à jouer.
Tu commences à...
Merci beaucoup, Candice. Vous restez bien sûr avec nous dès que vous voulez intervenir. Vous nous le dites et on aura les réactions à vos côtés. Raymond Domenech.
Non, vous dites que Marseille revient sur un but parce que c'est une erreur du défenseur.
Mais alors, moi, personnellement, je n'ai rien dit.
Le premier but de Benfica, c'est
Balerdi
qui donne le ballon en profondeur à l'autre et qui le rate. C'est aussi une erreur.
Non, mais pas à ce point-là.
C'est la même, je dirais, la pire, celle de.
Ah non, le gars qui a le ballon, qui la laisse passer.
C'est deux erreurs défensives.
Oui.
Vous pouvez pas dire d'un côté ça justifie et de l'autre.
Non,
ça
mais les
erreurs techniques.
L'erreur du Lisboète de défenseur, tu vois jamais ça. C'est impossible. Tu as le ballon, ça passe en dessous.
C'est vrai qu'avec Balerdi, on voit un peu plus souvent.
Non, mais c'est erreur de Balerdi. L'attitude marseillaise cette première mi-temps, c'est l'illustration de cette erreur de Balerdi justement, où ils mettent pas suffisamment le pied, au déchet technique permanent. C'est 45 premières minutes justement. Elle parle de l'état d'esprit. Candice, elle a raison. Mais t'as l'impression qu'ils vont arriver sur ce match avec une fin de Lyon parce que la Coupe d'Europe c'est leur énergie, c'est leur oxygène et finalement ils entament ce match à l'envers et ils n'ont pas les situations, ils sont à contre-temps.
Ils entament combien d'arrêts le gardien marseillais
pour le
ils entament le match comme ils sont en ce moment. C'est-à-dire qu'ils sont à côté de leur pompe, ça se passe mal.
En défaite de suite, on rappelle,
ça
en Ligue 1.
Et ça se passe mal, donc ils attaquent le match là. Mais ce qu'il faut quand même retenir, et moi je regrette, mais les 30 dernières minutes qu'ils font, alors ils ne sont pas extraordinaires non plus.
C'est
vrai qu'en face, ça prend un petit coup de vieux, on voit Di Maria qui perd beaucoup de ballons, mais ils existent, ils sont présents dans le jeu. Tu vois Veretout qui récupère, il y a eu effectivement des fautes techniques, mais ils sont là, ils sont présents. Et c'est vrai que l'occasion d'Harit, si jamais il la transforme, ça change. Bon, on est à 2-2. Donc il y a c'est ça le regret, parce que tu sens que cette équipe, malgré les contre-performances depuis un mois et demi, eh ben moi je trouve que c'est peut-être un signe qui fait que tout d'un coup, Marseille retrouve un petit peu quelques vertus.
Des doux rêveurs.
Mais ça fait rien, mais ils en ont besoin. Mais Philippe, ils en ont besoin, ils sont à la ramasse. Mais
pareil, il a des papillons.
Ils sont à la ramasse, mais j'ai pas de papillons.
Il y a des choses qui sont factuelles, Olivier. Depuis le début de la saison, je n'ai plus la stat exacte, mais sur le top 8 de Ligue 1, je crois qu'ils prennent 3 points sur 35 possibles. C'est-à-dire que
d'accord.
Dès que le niveau s'élève...
Mais j'entends bien.
Il y a des matchs où tu as plus de regrets parce qu'effectivement, tu te dis, ils ont un peu plus existé. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés aux abords des 20 mètres. Mais ce qu'ils font du ballon dans ces conditions-là...
Pas toujours.
Si Aubameyang n'est pas là, mais c'est rien. C'est pas une occasion.
Mais Aubameyang est là. Donc ne dis pas si.
Heureusement lui n'est pas blessé en plus.
Juste
les 4 tombes qu'ils ont...
Oui. Par rapport à ce qu'on évoque, parce qu'on l'a beaucoup entendu depuis le début de la saison de l'Olympique de Marseille, on a fait 500 débats cet été sur le mercato, etc. Est-ce qu'en fait, tout simplement, cet effectif-là, il est à sa place et on n'a pas le droit d'en attendre plus.
Ah, si, bah, moi, si, je pense que sur un match comme ça, un peu moins de nervosité, un peu plus de justesse, un peu plus de sérénité.
Donc l'excuse de l'effectif, elle n'est pas bonne. Les blessures, oui, mais pas l'effectif.
Oui, si, défensivement, si, parce que ça a obligé. On a vu dans ce match-là, il a changé 3 fois, 4 fois, ouais. Il a été obligé de
me. Luis Enrique, il a voyagé.
Mais moi, c'est la gestion technique, c'est les passes, les dernières passes, les situations aux 20 mètres, où là, c'est de la fébrilité. Mais c'est là où ils auraient pu, je veux dire, ils peuvent se dire s'apaiser un petit peu, un peu de sérénité, un peu de tranquillité. On a l'impression qu'ils ont le feu, le ballon, il leur brûle les pieds. Il y a eu des ballons en profondeur, des passes. On se dit, mais Mbemba, il a centré à un moment, il a mis le ballon au poteau de corner à l'opposé. Je dis, il y a eu des ballons en profondeur, Veretout. Je dis, mais c'est quoi? On a l'impression qu'ils sont tellement sous pression que techniquement,
avec tout ça, donc 2-1. Oui, c'est pas mal, quoi, je veux dire. Mais le regret, toi, tu voudrais plus de 2, de 3, de 4.
Que ces joueurs-là, pour moi, ils peuvent avoir un autre niveau.
Non, mais je pense que match retour, c'est jouable. C'est la bonne nouvelle, quoi. Faut positiver. Au Vélodrome, on se souvient, c'était Toulouse.
Oui,
ils sont pas passés loin. Alors, les occasions qu'ils avaient eues, ils avaient été très bons. Alors, je leur dis pas peut-être d'être au niveau de ce Toulouse-là. Enfin, ça serait bien, en tout cas, mais d'avoir un peu plus de réussite.
Non, mais
ils peuvent passer.
De marquer un but.
Non, mais Marseille, en ce moment, c'est clair, ils ont besoin de se raccrocher à comment dire,
quelque chose de positif.
Voilà, c'est ça. Ils ont besoin de trouver un chemin. Il est clair. Jean-Louis Gasset, ça fait 10 matchs.
Ouais.
5 gagnés, 5 perdus.
Ouais.
Donc, t'es vraiment à la croisée des chemins, là.
Ouais.
Et il est peut-être aussi pour démarrer sur autre chose. Mmh. Donc, c'est bien de se raccrocher peut-être sur ces 30 minutes qui font que tout d'un coup, même si l'adversaire en face est moins bon, mais qui tout d'un coup ont retrouvé quelques sensations.
Ce qui a été dit,
Didier, tu sais bien,
de Lisbonne,
mais tu sais bien que
Raymond,
tu te raccroches des fois, tu te raccroches. Mais non, mais
ils
tu te raccroches.
Dans le stade Vélodrome,
ils vont les gars,
non, mais tu as raison. Il y a un gros problème.
Il faut te raccrocher quelque
aussi.
Chose.
Ils jouent pas non plus sur leur valeur, parce que c'est quand même des joueurs. Ils doivent être capables de faire une ouverture ou une passe. Je suis bien d'accord. Non, je taquine et je dis qu'ils doivent se taper cette demi-heure avant d'entrer sur la pelouse du Vélodrome. Candice, Olivier, Raymond.
Non, mais par rapport
mais
à ce
côté,
que...
surtout pas
le côté gauche.
Côté gauche, hein, sinon, alors là.
Gauche-droite, chacun fera son choix. Juste Raymond, parce que vous parliez de la nervosité, on va demander à Candice. Elle était au stade, elle a vu le match. Vous les avez trouvés nerveux, vous, les Marseillais?
En fait, plus que des signes de nervosité, finalement, il n'y en avait pas énormément, mais c'était surtout des signes de manque de réactivité. C'est-à-dire que ça manque un peu de leader, voilà, des joueurs un peu qui vont réveiller les coéquipiers, même face à Villarreal, par exemple, alors que l'OM prenait l'eau, il n'y avait pas de joueurs qui allaient réveiller les autres. Il y avait un peu, on voyait Kondogbia qui faisait des gestes, justement, au milieu de terrain pour essayer de laisser aussi les joueurs dans le match. Quand ils ont pris le premier but, on voyait beaucoup avaient les mains sur les hanches et attendaient que le jeu reprenne. Mais c'est ça qui manque aussi, ce manque de leadership sur le terrain, de voir que certains vont aller réveiller les partenaires. Et justement, leur inculquer un petit peu cette niaque. Même Samuel Gigot, on sait qu'il a peut-être plus de niaque que finalement, en ce moment, en tout cas, de talent derrière. Il est parfois très brouillon, et c'est le capitaine quand même. Et ça a manqué de réactivité, voilà. Plus que de nervosité, je trouve que ça manquait justement un peu de caractère pour essayer de réveiller un peu l'équipe.
Si, Candice, par rapport à ça, Benjamin, sur les quatre ce soir qu'on attendait, parce que, pas faire passer ma soirée sur le mercato, mais un garçon comme Kondogbia, avec le CV qu'il a, quand on voit les trous qu'il y a eu ce soir au milieu de terrain, ce type de joueur, on est en droit d'en attendre beaucoup plus.
Moi, sur la première mi-temps notamment, c'est un des joueurs qui, pour moi, doit mettre le répondant, l'impact, pour mener un peu le bloc un peu plus haut, réussir à répondre un peu aux exigences qui sont imposées par le Benfica. Moi, sur la première période, effectivement, j'ai pas vu un milieu de terrain conquérant. Et effectivement, j'entends ce que tu dis, Olivier, c'est une équipe qui est dans le doute. Hein. Encore une fois, ils sont sur 4 défaites de suite. On arrive sur un match compliqué contre Benfica qui est largement favori. Mais tu dois attaquer ce match avec un peu plus d'envie, de niaque. Et un joueur comme Kondogbia, effectivement, il a normalement ce répondant sur des grands rendez-vous comme celui-là. Il a cette expérience. Mais c'est pas le seul. Hein. Jordan Veretout, en première mi-temps, effectivement, a eu des hauts et des bas. Défensivement, beaucoup trop de largesse. Tu défends quand même très mal sur le but concédé par Balerdi, enfin sur la faute de Balerdi. Globalement, ton bloc, il est pas en place. Sur plusieurs séquences, t'es quand même mis en difficulté.
J'ai l'impression que le terrain faisait 200 mètres.
Je suis complètement d'accord avec toi.
C'est vrai qu'il est grand, ce terrain.
Joao Neves leur a fait du mal.
Pour les deux équipes,
oui, parce que
les équipes
aussi.
De l'autre côté aussi.
Oui, c'est ça. Ouais. Si tu les joues mieux en première période, effectivement, tu parlais de justesse technique, oui, c'est clairement en première période, tu as aussi des séquences. Si t'es pas à contre-temps,
tu peux
l'exploiter. Mais effectivement, au milieu de terrain, on n'a quand même pas eu un grand Olympique de Marseille capable d'aller marcher sur les joueurs de Benfica. Et c'est quand même assez regrettable.
Même sans marcher dessus, en étant à droite, tu n'es pas obligé de marcher.
Complètement.
Philippe, par rapport
au moins cadre, l'énergie qu'on court.
Vous étiez extrêmement véhément sur la prestation de l'Olympique de Marseille ce soir. Qui vous a le plus déçu sur les cadres, sur les joueurs annoncés?
Ah bah, on vient de le citer, c'est Kondogbia.
Pour vous, c'est Kondogbia aussi?
Oui, parce que Verretou, il y a du déchet, mais au moins, il s'est pas caché. C'est-à-dire qu'on l'a vu, il y a eu de l'activité, il a pris les espaces, il a tenté des transversales, des ballons vers l'avant. Kondogbia, je l'ai pas vu prendre les clés de ce milieu de terrain. Et finalement, à aucun moment, il y a eu un match au milieu de terrain. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement Benfica tranquille à deux à l'heure qui avançait jusqu'aux 30 mètres pendant 60 minutes.
On avait le sentiment qu'ils attendaient leur heure.
Après, ils ont plongé physiquement. Effectivement, ils ont plongé physiquement. Je pense que le match contre le Sporting a laissé des traces. Mmh. Et ensuite, c'est l'OM qui gentiment remontait le ballon sans être attaqué. Donc effectivement, on n'a jamais eu de match au milieu de terrain dans cette rencontre. Et dans ces circonstances-là. Encore une fois, effectivement, Kondogbia avec son abattage, avec aussi sa qualité technique, parce qu'il est à droit avec ses pieds, normalement, c'est un garçon qui aurait dû avoir plus d'influence sur le jeu. Encore une fois, l'OM a des circonstances atténuantes, parce que depuis le début de saison, ça s'accumule. Je pense qu'on l'a un peu oublié désormais, mais l'absence de Rongier, elle est quand même
c'est
marquante, elle est criante. C'est quand même un joueur dont on mesure l'importance et l'impact. On parlait de leader, on parlait de évidemment, ce sera jamais Didier Deschamps, mais je veux dire, dans l'esprit, c'est quand même un joueur qui fait le lien sur le terrain et en dehors. Et là, il n'est pas là et ça se ressent cruellement. Kondogbia doit prendre le relais dans ces circonstances.
Après, quand on dit le terrain était très grand, comme en plus lui, il a ce côté un petit peu nonchalant, mais c'est un bon footballeur, je pense que s'il resserrait un peu les lignes, tu le verrais. C'est difficile aussi de jouer avec Harit, si tu veux, tu la lui donnes, il te fait bim, 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 bim. Alors, il te donne l'impression d'eux, mais à l'arrivée, ça débouche rarement. Donc pour avoir de la fluidité, c'est difficile, je trouve, tu vois.
Olivier, par rapport à ce que disait Raymond sur la nervosité, ce que nous évoquait aussi Candice sur le manque de réactivité des joueurs, comment on explique, vous qui avez été joueur de très haut niveau, quand on est moins bien, la Coupe d'Europe, parfois ça peut être une respiration, comment vous expliquez cette entame ratée?
C'est un petit peu compliqué. Je pense qu'ils sont, vraiment Marseille dans cet enchaînement de mauvais résultats. On l'a vu contre Paris.
Ça peut pas vous aérer, ça, Olivier, quand on change de compétition, quand c'est une autre atmosphère.
Théoriquement, dans ta tête, il y a quelque chose qui se passe, mais quand t'es à côté de tes chaussures, t'es à côté de tes chaussures. Il y a des fois, et puis c'est collectif, c'est pas un ou deux joueurs. Donc il y a cette mise en route qui est compliquée. Moi, ce qui est plus dangereux, c'est que dans cette première période, il n'y a pas de réaction, comme l'a bien dit Candice. On les sent pas réagir, on les sent pas atteints par quelque chose. Ils subissent. Ouais. Ils subissent, et puis voilà, ça se passe. On a réveillé à mi-temps, peut-être que, Jean-Louis Gasset, dans son discours, a un petit peu réveillé ou les a un petit peu sermonnés. Mais c'est compliqué pour eux, peut-être. Et comme l'a dit encore Candice, et je pense qu'elle a raison, il manque dans cette équipe, dans ces moments-là, un leader pour qui vient te réveiller, qui vient te secouer. Et puis, clairement, et tout le monde le dit, c'est qu'il n'y a pas non plus de leader technique à ce moment-là. Puisque tous les ballons sont perdus.
Le replacement en deuxième.
Donc c'est compliqué quand il faut que tu reviennes à chaque fois.
Le replacement de Aubameyang en deuxième est quand même, pour le coup, pour
dans
moi, un des indicateurs
c'est clair.
Du temps fort marseillais. Parce que Moumbagna, tu ne le touches pas de la première période.
Du
il
tout.
Il ne sert à rien, sincèrement. En deuxième mi-temps, quand tu as Aubameyang qui est réaxé, tu arrives déjà davantage à le toucher dans une position qui lui convient quand même davantage. Et je trouve que techniquement, tu as été plus en capacité d'aller le chercher avec peut-être un joueur un peu plus. Avec la qualité qui collait peut-être davantage au jeu.
Parce que là, même si ce n'était pas la même configuration, ils ne sont pas bousculés comme à Villarreal.
Non.
Mais à Villarreal, si tu réfléchis bien, ils peuvent en prendre 4 ou 5, suivant comment ça tourne. Mais là, ils étaient franchement bousculés. Mais bon, ils avaient un gros avantage à aménager, un truc, ça s'est bien
gagné jusqu'à la fin. Une autre entame.
Mais là, ça allait à deux à l'heure, il y avait des espaces pour une contre-attaque. Donc c'est encore plus criant, quoi, si tu veux. Mais bon.
On n'a pas
alors encore. Après, juste, Bazin, là, il y a peut-être un constat à faire. Je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure. On a eu un entraîneur qui est arrivé, il y a quelque chose qui s'est passé, puis tout d'un coup, je ne dis pas qu'on est en train de rétro-pédaler, mais on s'aperçoit qu'après 5 victoires, tout d'un coup, t'enchaînes des mauvais résultats. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, moi, je ne suis pas à Marseille, mais Là, tu as le droit de te poser des questions. Comment tu fais pour 5 victoires consécutives?
Et contre qui, Olivier?
Non, mais certes.
Mais ça joue un Philippe,
oui, mais ça fait rien.
En fait, tu non, mais Villarreal à l'aller, c'est quand même Villarreal.
Très bien.
Bon, Donetsk, ça fait rien. Même je si dis, c'est plus Donetsk.
Non, mais je veux juste essayer. Moi, je me demande comment ça se fait que tu replonges derrière, même si c'est contre Paris, même si c'est.
Tu n'as pas de référence depuis le début de saison contre des équipes sérieuses. C'est-à-dire que comment tu veux que ces joueurs-là. C'est quand même. Le Benfica, c'est une histoire, c'est un maillot, c'est un stade.
C'est un très grand club européen.
Voilà, t'es au stade des quarts de finale, c'est normal qu'il y ait un petit peu de pression. Je veux dire, comment tu veux rentrer avec de la confiance, avec un acquis, avec un vécu? T'arrives là, finalement, dans une saison où t'es à la rue en championnat, t'es à la ramasse, donc c'est déjà une bénédiction d'être en quart de finale d'une Coupe d'Europe. Mais tu peux pas leur demander d'arriver... Cador, patron, avec en plus des blessés. Dans
mais moi, c'est pas ce que je leur demande.
Bah non, mais tu dis, il y a une crise de confiance, tout ça, mais la crise de confiance, elle n'a pas de 5 matchs. C'est toute la saison, la crise de confiance.
On rappelle 3 entraîneurs.
Donc finalement, on en revient à la question que Joe passait pour l'heure, tout à l'heure. On revient sur le recrutement.
Ah bah bien sûr. Oui,
parce que c'est en fait, ben non, mais en fait c'est la base. C'est la base puisque ça fait quand même 3 ans de suite déjà. Non mais je dis plus rien après. Non mais ça fait 3 ans de suite. Oui mais ça fait 3 ans de suite qu'à chaque fois on te change 80% d'effectifs
plus le coach Olivier.
Plus le coach donc tu te rends compte.
Et chaque fois tu changes de coach.
Et là je te rejoins Philippe. Il va changer. C'est vrai que pour retravailler, pour remettre en place, c'est compliqué. Parce qu'il faut laisser du temps.
On va juste aller voir Candice Roland pour poser une question de Jean-Louis Gasset puisque vous l'évoquiez. Qu'est-ce qui se passe autour du coach? C'est vrai que voilà, la série, elle n'est pas bonne. Est-ce qu'il y a un peu de défiance déjà, Candice, autour de Jean-Louis Gasset ou c'est beaucoup trop tôt pour en parler?
Non, mais même si effectivement il y a une 5e défaite consécutive qui vient de s'ajouter, il n'y a pas forcément de défiance autour de Jean-Louis Gasset parce qu'il a plein de circonstances atténuantes. La flopée de blessés, on le dit, depuis la trêve internationale, on attendait des retours de blessés, ils ne reviennent pas. Il y en a qui s'accumulent, vous voyez encore Quentin Merlin, on va prendre évidemment des nouvelles dès que Jean-Louis Gasset va nous rejoindre en conférence de presse. Il y a aussi, eh bien, vous le disiez, le mercato raté, ce manque de talent aussi, de certains joueurs qui sont en deçà de leur talent et certains qui sont tout simplement à leur niveau et qui ne sont pas du niveau de l'Olympique de Marseille. Donc il a quand même beaucoup de circonstances atténuantes. Il est là en dernier pompier de la saison et voilà, il n'y a pas de défiance autour de Jean-Louis Gasset qui fait comme il le peut en fait. Il fait ce qu'il peut avec les joueurs qu'il peut face à des adversaires qui sont bien souvent supérieurs à l'OM. Donc il n'y a pas de critique et de défiance envers Jean-Louis Gasset qui encore, on l'a vu ce soir, a dû un peu rustiner de part et d'autre. À chaque fois son équipe, il a dû la remodeler plein de fois dans la rencontre.
Merci beaucoup Candice, on attend toutes les réactions à votre micro. Raymond, je vous ai coupé la chic, pardonnez-moi.
Oui, non, je voulais souligner simplement que cette équipe, elle me semble, elle ne sait pas trop comment jouer. On voit beaucoup de joueurs, ils veulent jouer en allant vite. C'est-à-dire, c'est des joueurs qui portent le ballon, qui accélèrent, qui courent avec le ballon. Et on a l'impression toujours que c'est ce qu'ils veulent. Il faut absolument aller vite, aller marquer. Et c'est là où je suis d'accord avec vous quand on dit, il n'y a pas un vrai patron pour tempérer, pour réguler le jeu, pour calmer, pour garder le ballon. Là, contre Benfica, ils auraient pu garder le ballon dans le camp de l'adversaire 10 fois, les faire tourner, je veux dire, les mettre en danger vraiment, sans eux se mettre en difficulté. Et ils veulent tellement aller vite qu'il faut absolument aller marquer. On a l'impression des gamins qui jouent dans la cour de l'école, là, qui veulent absolument aller marquer. Et c'est là où je dis, c'est dommage parce que pour moi, ils ont les moyens. Harit a les moyens, Kondobia a les moyens, Verretou il a les moyens d'un moment de poser. Donc, on l'a fait tourner, on la garde, on l'a fait tourner, on les fait sortir.
Ouais, mais c'est la peur
les
aussi.
Autres, ils veulent aller
ils
en profondeur.
Ils s'en débarrassent,
courez, vas-y, courez.
Fait,
mais
vois, ouais.
On prend le temps. Ils ne prennent pas le temps. Et c'est là où je dis, ils peuvent avoir des regrets parce que c'est, pour moi, c'est plus psychologique. Ces erreurs techniques, elles viennent de ce comportement d'empressement.
Voilà, vous l'attribuez au côté mental, quelque chose plus qu'aux difficultés techniques. Virginie, on a des nouvelles de Quentin Merlin.
Oui, je vous montrais tout à l'heure les images de son genou qui semblait avoir tourné, peut-être aussi sa cheville. Le premier diagnostic est tombé, les examens doivent encore le confirmer, mais ce serait une grosse entorse de la cheville. Voilà, on l'a vu sortir sur civière, on attend plus d'informations, mais ce serait une grosse entorse de la cheville et non du genou.
On espère, parce que les images à l'instant T, on était extrêmement...
On pensait le genou qui s'est bloqué.
Ligament, au moins, comme il a tourné, il pouvait les deux. Hein. On peut voir la cheville, les deux.
Oui, oui, si c'était possible, ça a beaucoup tourné. Alors, je suis très, très fier de vous. Juste, messieurs, je suis très, très fier. On n'a pas encore parlé d'arbitrage. Et pourtant, il y a un fait qui fait énormément parler.
Ouais, c'est vrai.
On est à la 58e minute de jeu. On va le voir furtivement. On va avoir les images qui arrivent dans quelques instants. Voilà, il y a un contact entre João Neves et Pierre-Emerick Aubameyang. Alors,
On le revoit, voilà. Même si Pierre-Emerick Aubameyang a perdu le ballon, il y a quand même un contact réel, clair et net dans la surface. On va faire un petit habillage à la Marseillaise. Péno ou pas péno selon vous? Philippe Sanfourche.
Péno.
Péno, clairement. Olivier Rouillet.
Péno.
On est d'accord.
Bon, président?
Péno. Bon, c'est mieux le premier ralenti que le deuxième.
C'est mieux le premier. Alors, président, pour quelle raison, pour vous, le pénalty est indiscutable?
Ben parce que même s'il il semble perdre un petit peu le contrôle du ballon, il y a un contact sur son genou. Deuxième ralenti, l'impression que c'est un peu la hanche. Qui est, on est en pleine surface de réparation, donc ouais, ça se discute même pas. Ouais. On était à 2-0 ou 1-0?
Non, 2-0.
2-0 déjà, ouais.
Ouais, 2-0 déjà.
Non, mais l'idée qu'il ait le ballon ou pas le ballon, ouais. Et il commet une faute dans la surface de réparation, ouais.
Ça rentre pas en compte.
C'est pénalty. Ah,
oui, je veux dire, même si le ballon est à 90 mètres.
Tu lui mets une gifle, oui, et d'autant, même si le ballon il est à 50 mètres.
Et d'autant que dans le geste, à aucun moment, le joueur de Lisbonne ne touche le ballon.
Ça a été choqué d'ailleurs longtemps.
Mais bien sûr, le seul objectif qu'il a, c'est d'essayer, entre parenthèses, de passer devant Aubameyang, ouais. Ce qui n'est pas possible. Donc il met le pied, mais s'il touche le ballon, là on peut dire qu'il a joué le ballon, mais il ne le touche pas le ballon. Et moi j'ai toujours les arbitres.
Vous, il fait même pas action de jeu.
Mais les arbitres, à chaque fois que, quand je commentais les matchs, je leur posais la question, ils me disaient, nous, ce qui nous importe le plus, à l'époque, peut-être que ça a changé, c'est la direction du ballon. Si le ballon ne change pas de direction, ça veut dire que le défenseur, il n'a pas joué le ballon, il a joué l'adversaire. Donc pour eux, il n'y avait aucun problème, c'était pénalty.
Olivier, je vous écoute souvent, vous faites beaucoup d'émissions à la chaîne Équipe, vous parlez beaucoup de votre passé de commentateur. Est-ce que oui. Ça vous manque?
Pourquoi
peut-être
non?
Qu'on passe un mot à la direction?
Non,
vous
du commentiez tout. Mais de oui, ça me manque, bien sûr que ça me manque, c'est toujours agréable d'être sur les terrains, bah, écoutez, dans, voilà, d'être au milieu de la foule et d'écouter ce qui se passe dans la
radio. Parce qu'ils scandaient votre nom en plus. Excusez-moi, monsieur Rouillet, vous êtes une star.
Accessoirement, sur ce fait de jeu. On a beaucoup glosé ces dernières semaines sur l'arbitrage français, l'utilisation de la VAR, la prédominance de l'arbitre principal, de est-ce qu'il faut contrarier l'arbitre principal. C'est encore une pantalonnade. C'est-à-dire que M. Oliver, il influence beaucoup trop finalement, peut-être par son passé, par sa présence, les assistants vidéo, qui n'aillent pas vérifier de lui-même, c'est pas normal. C'est pas normal, parce qu'on est clairement dans une situation, il peut ne pas avoir jugé sur le moment, sur l'instant, c'est checké par la VAR, ça doit servir à ça. La
oui, tu as raison, là, parce qu'à partir du moment, c'est, lui ne siffle pas, et pour cause. À partir du moment où la VAR te prévient, et qu'il arrête le jeu, et que la VAR lui dit, forcément, on se demande s'il n'y a pas quelque chose sur le joueur en question, Marseillais, qui reste encore à terre, etc. Ben, la moindre des choses, c'est d'aller voir. Parce que sinon, on ne t'appelle pas. Quoi. Oui, non, si on t'appelle, il faut aller voir.
C'est ce que j'arrive pas à comprendre. C'est il l'appelle pour lui dire quoi? Il lui dit, attends, on est en train de vérifier que...
Oui. Ou alors...
Vérifier.
Si c'est manifeste ou si c'est pas manifeste.
Ou alors, le meilleur des cas, c'est... Parce que Aubameyang, il est resté par terre pendant toute l'action qui a continué. Ouais. Et il est encore par terre. Mm-hmm. Et peut-être qu'ils lui disent, écoute, on vérifie, attends 2 secondes. Et après, il confirme et ils disent... Il n'y a rien, tu peux continuer. Moi, je vois que ça, parce que sinon,
Jean-Louis
il va
Gasset voir. Est en conférence.
C'est pour
de
ça qu'il faut entendre ce qui est dit entre la VAR et l'arbitre. Monsieur Gasset, oui, il attendra 2 secondes, je termine.
Bonsoir. Michel.
Bonsoir.
Oui, donc, bonsoir. C'était. Ça avait l'air de prendre le chemin d'une grosse désillusion. Et puis finalement, c'est le match où tout reste permis et la porte reste ouverte pour la suite.
Les 30 dernières minutes et le but nous laissent beaucoup d'espoir pour le match retour.
Mourad.
Bonsoir coach. Qu'est-ce que vous dites à la mi-temps lorsqu'il y a encore un de vos joueurs important quand un Merlin se blesse, et qu'est-ce que vous dites à vos joueurs à la mi-temps pour leur dire de ne pas perdre espoir? Enfin, comment vous avez trouvé l'espoir, la vie là-dedans?
Le fait de... Un quart de finale de Coupe d'Europe se joue sur 2 matchs. Quand on sait que le match retour est chez nous, il ne fallait pas partir à l'abordage parce qu'on était mené 1-0. Et bizarrement, on a pris le second but alors qu'on est en train d'attaquer et on se prend un coup. Mais ça, c'est nos défauts. On l'a fait en championnat, on le refait en Coupe d'Europe. Mais à partir de là, à partir du moment où on a été mené 2-0, il y a eu Il y a eu quand même quelques faits de jeu, comme la blessure de KTM Merlin qui a une entorse. Chancel Mbemba qui avait tout donné. Voilà, il y a 10 jours qu'il ne s'était pas entraîné. Hier, il a pris la décision de jouer. Il a tout donné. Il fallait encore changer et de système et trouver des latéraux parce que déjà qu'on n'en a pas beaucoup, c'est là qu'on a le blessé de la première mi-temps. Mais se dire qu'on était dans le vrai en première mi-temps si on négociait mieux et avec beaucoup plus de justesse toutes ces balles de contre qu'on avait. Dès qu'on partait du milieu du terrain, on arrivait à 3 contre 3 ou 4 contre 4. Et si on avait joué plus juste, on aurait pu ou dû marquer un but. J'ai dit, il faut continuer comme ça.
Candice.
Bonsoir Jean-Louis.
On va voir. Ah, c'est dommage. Mais la question de Candice, on aura répondu. J'y peux rien, c'est la publicité. Ouais. Je suis vraiment d'après. Le résultat de ce super duel, c'est la victoire d'Olivier Rouillet et de Raymond Domenech. Restez bien avec nous pour la suite de l'équipe du soir.
Enfin, le football parle. Merci, messieurs, dames.
Quelle modestie. Restez bien avec nous pour la suite de l'équipe du soir. On continue de parler de l'Olympique de Marseille. On parlera aussi de Lille qui s'est incliné face à Aston Villa et du Paris Saint-Germain et de Kylian Mbappé. A tout de suite sur la chaîne.
Et mettez immédiatement Olivier au commentaire de match. S'il vous plaît.
De retour pour la suite de l'équipe du soir, toujours en compagnie de Philippe Sanfourche, de Benjamin Quarez, de l'excellente Virginie Saint-Cylie, qu'on ne voit pas mais elle est bien présente, Olivier Rouillet, Raymond Domenech et le président à vie de l'équipe du soir, Didier Roustan. C'est toujours passionnant ce qui se passe pendant la publicité, puisque Virginie faisait remarquer à juste titre qu'Olivier Rouillet était totalement
sourd. Mais il est sourd, il ne m'entend pas, il ne m'écoute pas.
Et le pire, c'est qu'elle me traite de vieille chouette. Ah, vous rendez compte,
c'est joli,
c'est honteux.
Qu'est-ce qui vous rend sourd comme ça, mon cher Olivier
Rouillet? Discuter avec Raymond, je n'écoute pas ce qui arrive de ma droite, ça ne m'intéresse pas.
Ok, bon bah très bien. Je vous propose qu'on se reconcentre sur le match de l'Olympique de Marseille, défaite donc face au Benfica Lisbonne. On va tout de suite écouter Jean-Louis Gasset qui lui se projette sur le match retour.
Dernière minute et le but nous laisse beaucoup d'espoir pour le match retour.
Alors il a beaucoup d'espoir sur le match retour. Habillage à la Marseillaise. Quelle régie exceptionnelle. D'accord ou pas d'accord? Est-ce que ce match-là vous donne de l'espoir pour le retour? Philippe Sanfourche.
Je suis cohérent avec ce que j'ai exprimé.
C'est mieux. Donc non pour Philippe Sanfourche. Benjamin Quarez.
Moi je vais dire oui par rapport à mon dernier argument, mon départ mondial. Le 2-1, le D1 me laisse.
Aucune cohérence chez Benjamin Quarez, c'est bon.
Oui,
Olivier,
bien sûr.
Oui. Raymond Domenech.
Oui, aussi, un but d'écart, c'est. Voilà, si au début du. Avant le match, on avait dit qu'il y aura juste un but Benfica pour le retour, il y a 50 000 Marseillais qui seront au stade, qui seront heureux.
Philippe, vous êtes le seul à avoir dit non. Qui voulez-vous affronter?
Moi, je les prends tous.
Malheureusement,
prends ton ami.
Vas-y.
Alors, effectivement, parce que je voudrais bien comprendre comment est-ce qu'il peut passer de son développement de la
première partie. Ça, je suis d'accord.
Voilà. À ce qu'il fait aujourd'hui. Donc,
allez. Donc ça sera Benjamin Quarez.
Vas-y, ouvre le bal.
Cher J'écoute. Président, vous pouvez bouger votre nez et appeler le jingle. Magnifique. Donc, ce match-là ne lui donne pas espoir pour le retour. C'est Philippe Sanfourche. Ils étaient amis sur le super duel de début d'émission. Pardon. Ils sont désormais opposés. C'est Benjamin Quarez. Est-ce que, Jacques, vous êtes prêt en régie?
C'est OK.
Magnifique. Non, pas d'espoir. Philippe Sanfourche.
Bah non, parce que je pense que nos petits amis ont oublié que la règle du but à l'extérieur n'existe plus. Donc, ça veut dire qu'il faut gagner avec deux buts. Le but d'écart, encore une fois, moi je me réfère à tout ce que l'OM n'a pas fait sur le début de saison dans tous les grands rendez-vous. Je ne vois pas cette équipe dominée de la tête et des épaules, un Benfica qui sera remis physiquement, effectivement, et qui sera peut-être capable d'aligner 90 minutes pleines. Donc moi, rien ne me montre dans la saison de l'OM une capacité à renverser la situation.
La réponse de Benjamin Quarez.
Tout à l'heure, on m'a demandé s'il pouvait avoir des regrets. J'ai répondu que non, puisqu'ils avaient attaqué le match à l'envers et que pour avoir des regrets, il aurait fallu l'entamer à l'endroit. Pour le coup, le score est de 2-1 à la fin. Donc moi, je suis optimiste dans le sens où j'ai vu effectivement une équipe de Marseille qui a pu réagir en deuxième période, qui n'a pas joué un grand Benfica, et on l'a dit déjà à plusieurs reprises depuis le début de l'émission. Donc même si c'est un grand club européen qui a remporté des titres très importants, j'ai quand même pas vu un adversaire redoutable. Je me rappelle effectivement du match, la double confrontation contre Dordogne Toulouse, où Toulouse n'est pas passé loin de les taper. Et pour ces raisons-là, effectivement, je me dis pourquoi pas, peut-être que l'Olympique de Marseille peut renverser Benfica, même si ce sera compliqué.
Benjamin, ça fait deux fois le temps. Il vous reste encore une seconde, trois, Philippe.
Personnel.
Merci beaucoup, messieurs. Je suis désolé, Benjamin, mais ça fait deux fois quand même. Vous écoutez pas. Quand on est jeune, on écoute et on respecte les règles. Donc, si vous pensez que ce match donne des espoirs pour le retour, vous votez pour Benjamin Cuarez. Si vous êtes opposé à cette idée, c'est Philippe Sansfourche. Vous allez sur l'équipe Connect. Président, votre arbitrage.
Oui, bah c'est le résultat qui donne quand même de l'espoir. Ça va être différent dans l'environnement que l'on sait. Il va falloir tout lâcher. Ce qui me donne espoir aussi, c'est la rencontre Toulouse-Benfica et c'est surtout l'adversaire. S'ils avaient pris la gifle, mais que ça se termine 4-2-1 contre Villarreal, si tu veux, tu vois, le même match où tu es débordé de tous les côtés, c'est une catastrophe et ils te sont supérieurs dans tous les secteurs de jeu, plus ou moins. C'était différent, hein, puisque là, tu pouvais te permettre. Mais là, compte tenu de l'adversité, le Vélodrome, tout le tralala, et puis peut-être on verra le résultat de Liverpool, mais il y a une bonne nouvelle en perspective, peut-être même si ça sera moins clinquant si tu te qualifies en demi-finale, tu vois, parce qu'après, si tu te qualifies, il faut espérer encore plus. Donc, plutôt Benjamin. Même si je ne nourrissais pas de regrets sur le score.
Vous en faites référence, cher Président, sur les autres résultats de ce soir en Coupe d'Europe. On verra toutes les images et les buts dans le Minuit Info de l'excellente Virginie Saint-Cyr. Votre religion, vous, Olivier, vous n'avez pas bougé, vous êtes confiant pour la qualification. C'est quoi? C'est le Vélodrome? On sait que c'est toujours particulier, ambiance à Marseille, la Coupe d'Europe.
Déjà, tu n'as que ce petit but de retard. Déjà, c'est une motivation en soi. Tu dis, bon, on va déjà marquer un but et ensuite...
Enfin, la motivation, on l'a pas vu ce soir en première, par exemple.
Non, mais je l'entends bien, mais on fait abstraction, c'est fini. Là, maintenant, tu es dans une nouvelle dynamique, tu es sur un nouveau match. J'ose espérer, bien sûr, que les Marseillais attaqueront la première période tambour battant et le match sera un match de qualité. Il leur faut... Mais pour arriver à ça, il faut déjà... Ils jouent quand? Vendredi ou samedi?
Samedi,
voilà, que déjà là, on est un autre Olympique de Marseille en Ligue 1, et ensuite d'emmener le reste. On peut retenir, encore une fois, les 30 dernières minutes, où on a senti que là, il y avait quelque chose de nouveau, et puis on peut penser sérieusement que ce Benfica-là est facilement démobilisable. Donc il faut impérativement être à fond dès la première seconde.
Il faut que les Marseillais se souviennent et regardent le match de Toulouse. Je veux dire, Benfica est du même niveau que ce qu'ils ont fait contre Toulouse. Et Toulouse peut marquer des situations pour se qualifier. Donc il y a des possibilités. C'est-à-dire, ils n'auront pas cette réussite qu'ils ont eue à chaque fois Benfica. Donc s'appuyer sur ce match-là en se disant, c'est possible, ils ne rencontrent pas Manchester, ils ne rencontrent pas le Real.
Ça dépend lequel, pas Manchester City.
Ouais, mais peu importe. Ils ne rencontrent pas une équipe en se disant, bon, ça va être compliqué. Ils rencontrent une équipe qui a failli se faire éliminer par Toulouse, qui a fait 0-0, match retour dans des conditions difficiles. Donc, s'ils n'y croient pas là, ils n'y croiront jamais. Hein.
Très bien. Candice Roland, vous vouliez réagir aux propos de Benjamin Cuarez.
Oui, non, mais même un mot par rapport aussi à ce que disait Jean-Luc Gasset en conf. Il a terminé en disant il faudra faire le match parfait la semaine prochaine. Je n'ai même pas le sentiment qu'il y a vraiment besoin de faire un match parfait. Il faut faire un meilleur match, ça c'est sûr, mais pas forcément besoin de faire un match parfait. Et aussi là où on peut être plus optimiste, c'est qu'on parlait beaucoup de manque de leadership, de réveil peut-être dans l'Orange Vélodrome. Ça va être un tout autre réveil, parce que si sur le terrain ça fonctionne pas, c'est sûr qu'en tribune ça va gronder et ça va réveiller les joueurs, ça va les pousser aussi, parce que cette saison les supporters ont eu tendance à pousser quand ça allait mal sur la pelouse aussi. Donc ça va grandement aider les Marseillais, c'est sûr.
Merci beaucoup, Candice. Je reviens vers vous, juste Raymond, puisque vous avez coaché quand même un petit peu dans votre carrière de trois équipes de très très haut niveau. Comment on fait, parce qu'Olivier en parlait tout à l'heure, sur le côté, voilà, on a une série qui est très négative. Comment on fait pour se raccrocher juste à 30 minutes d'un match correct face à un Benfica moyen pour se donner espoir et motivation?
On reprend tous les autres matchs. Ils ont l'exemple du match de Villarreal. Ils ont le match du Shakhtar aussi, oui. Où il s'est passé quelque chose. Donc se remettre dans ces conditions-là et se mettre dans cet état d'esprit-là en se disant, on a battu ces équipes-là, celle-là elle n'est pas plus forte. même peut-être inférieur, je trouve. Donc,
vous trouvez que Benfica est inférieur à Villarreal ?
Ah, complètement. Oui. Ah oui, oui. Je veux dire, ils ont des boulevards, il y a des espaces. Je veux dire, Villarreal, c'était compliqué de jouer, de ressortir. Là, il y a surtout que c'est à répétition. C'était pareil avec Toulouse. C'est pas un match particulier où il y a eu des espaces. C'est tous leurs matchs où ça se passe comme ça. Donc oui, c'est se remettre vraiment dans cette situation et de se rappeler ce qu'ils ont fait de bien. C'est-à-dire, nous, on n'arrête pas de leur dire ce qu'ils font mal. L'entraîneur, son boulot, ça va être leur montrer voilà ce qu'on sait faire. Voilà comment on a été. Voilà ce qu'on est capable de faire. Et voilà ce qu'il faut remettre en place pour ce match-là. Il faut qu'ils travaillent là-dessus.
Je crois que même ils peuvent se permettre peut-être d'en prendre un, tu vois. Je les vois capables d'en mettre trois. Non, parce que si par hasard, tu vois, tu te jettes un peu à la soupe pas bêtement ou des choses comme ça, mais regarde Donetsk, ils étaient menés chez eux, tu vois. Et Toulouse pouvait en mettre trois. Et je vois pas Toulouse plus fort que l'OM.
Non. Par rapport à ça, Philippe, c'est vrai qu'on fait beaucoup de débats sur les clubs français en Coupe d'Europe. Et nous, Français, on a souvent l'impression que ça va passer, que c'est une équipe moyenne.
Ah, il y a ça aussi, oui.
Est-ce que ce côté-là, en se disant, bon, c'est un Benfica moyen, ça va être le Vélodrome, ça va être le feu, c'est pas aussi un piège pour les Marseillais ?
Bah, regardez les stats des clubs français contre le Benfica.
C'est pas bon.
Contre les clubs portugais, en règle générale.
C'est pas bon non plus.
On part toujours gagnant. On dit toujours, oh, Portugal...
Non, mais là, on dit que c'est jouable et, ouais. tu dois y aller à fond les marrons, quoi. Ouais. Tu dois pas trembler.
En
mettre 5. Va savoir s'ils en mettent pas 5. Non, mais je veux dire, là, tu as pas à te poser de questions, tu as pas à manquer de confiance, à te dire, mon Dieu, le mur, il est insurmontable. Tu as pas non plus à te dire, ça va être une promenade de printemps, tu vois, le long des quais. OK, faut rester concentré, on est d'accord. Mais enfin, moi, sur ce que j'ai vu là, et par rapport au résultat, si c'était 2-0, je ne te dis pas la même chose.
Ouais, plutôt.
Je ne suis pas démesurément optimiste, mais je me dis que c'est tout à fait jouable.
Ouais. N'oubliez pas qu'il y a eu une ou deux situations. Si Di Maria n'avait pas été cramé, il y a eu des remontées de balles, des 3 contre 3, où on était à un moment donné pas si loin que ça du 3-0.
Oui, non, mais si tu utilises les 6, tu peux les mettre aussi pour les Marseillais. S'ils n'avaient pas été si maladroits, il y avait des possibilités de contre.
Si le coup franc d'Aubameyang, il est un peu plus bas.
Oui, voilà. On a égalité de ce côté-là.
Il ne s'agit pas d'être... affreusement pessimiste. Je pense que effectivement, il y a un homme fort cette saison, c'est Aubameyang, qui surnage en permanence dans un environnement qui est très complexe. Pour lui, en plus, le début de saison n'a pas été facile.
Ça a été même très compliqué avec le Vélodrome. Voilà. Ouais.
Donc il fait preuve d'une vraie force mentale, d'une capacité à tenir sur l'ensemble de la distance sur l'ensemble de la saison. Et donc s'il y a un homme sur qui tu peux compter, effectivement, si Aubameyang est en réussite, qui marque assez rapidement. Dans cette rencontre, il peut emmener avec lui cette équipe de l'OM avec le Vélodrome. Effectivement, je veux bien accorder ça. Mais encore une fois, les références de l'OM sur la saison, pour moi, sont bien trop limitées.
Il y a trop de limites.
L'OM a une histoire avec la Coupe d'Europe. Et Aubame, tu vois, Aubame, Aubame masqué, ça va être une fête. Elle danse, Aubame masqué. Le Vélodrome va sauter, qui ne saute pas n'est pas, voilà.
Vous faites très très bien. Puisqu'on parle du Vélodrome, on va écouter Jean-Louis Gasset.
C'est mon côté créole, mon cher.
Je ne savais pas que vous en aviez.
J'ai des origines.
Ah, je ne savais pas.
Ma maman est antillaise quand même. J'ai remarqué que je ne suis pas blanc, c'est pas le blanc pec. Quoi.
C'est vrai. Ouais, je ne m'étais jamais fait la réflexion, mais c'est vrai. Je vais aller lire votre Wikipédia.
Il y a des mélanges.
On écoute Jean-Louis Gasset.
Lire puzzle.
Mais on ne me l'a même pas offert.
Mais Karine, là.
Ah, mais oui.
Alors, je veux dire, tu ne peux pas demander à Karine qu'elle te prête.
Je peux
non, elle t'envoie Dodu qui.
Exactement. Exagérer, on va écouter à Jean-Louis Gasset qui parle de
pas le donner et au mec, et à la femme, et aux enfants, et aux chiens. Ça suffit pour la famille.
Jean-Louis, ça part.
Oh la vache.
La qualification se fait sur deux matchs. On sait où on va jouer, devant qui on va jouer, et on sait qu'on est capable de se surpasser. On a marqué 3 buts contre le Shakhtar, on a marqué 4 buts contre Villarreal, porté par notre public. Donc, on a beaucoup d'espoir.
Allez, Jean-Louis
Nous
Gasset.
Sommes les Marseillais. Là, ça doit reprendre.
Vous faites très bien. Normalement, c'est Olivier.
Olivier. Nous sommes les Marseillais.
Nous sommes les Marseillais.
Et nous allons gagner. Là.
Et nous allons gagner.
Philippe, il ne pourra pas le faire.
Philippe, il ne peut pas le faire. Philippe, il ne peut pas le faire.
Allez, le résultat.
Aux armes.
victoire de Benjamin Suarez.
Mais évidemment,
c'était facile.
Nous sommes les Marseillais.
Restez bien avec nous pour la suite de l'équipe du soir.
Oh, les Parisiens, ça
dans
suffit.
La joie et dans la bonne humeur, il y aura le minuit info de Virginie Saint-Cylie. Oui. Puis on parlera du Paris Saint-Germain et de Kylian Mbappé. On rappelle que le PSG s'est incliné hier 3-2 face au FC Barcelone. A tout de suite. De retour sur la chaîne L'Équipe pour la suite de l'équipe du soir, toujours en compagnie de Didier Roustan, Philippe Sanfourche, Benjamin Cuarez, Olivier Rouillet et Raymond Domenech. Restez bien avec nous dans quelques instants, on va noter les joueurs de l'Olympique de Marseille, on parlera aussi de Kylian Mbappé et du Paris Saint-Germain, mais tout de suite, c'est le moment que toute la France attend, le moment de gloire.
Au moins ça.
Oui, c'est important, le mini info de Virginie Saint-Cylie. On commence votre excellent JT en revoyant les images de la défaite de Marseille face à Benfica.
La défense a cédé dès le premier quart d'heure. Balerdi se manque, Tengstedt trouve Rafa Silva à l'entrée de la surface. Petit pointu pour ajuster Paul Lopez. Visiblement, les images ne sont pas là. Ah. Si, ça y est, elles arrivent.
On a du retard.
Le mauvais sort va se poursuivre ensuite. Quand l'OM va perdre Quentin Merlin juste avant la pause, son genou semble tourner. C'est finalement sa cheville qui aurait été touchée. Il est sorti sur civière pour le but du 2-0. Di Maria trouve Neres à droite. Il lui remet le ballon en retrait. Et l'ancien Parisien enfonce les Marseillais. Aubameyang les remet dans le coup à la 67e sur une belle passe en profondeur d'Amin Harit. Benfica l'emporte 2-1.
Merci beaucoup Virginie. Tout de suite, les images du match spectaculaire entre Liverpool et l'Atalanta.
La noyade de Liverpool, 3-0 pour l'Atalanta. Doublé de Scamacca qui piège les Spurs. D'abord à la 38e contre le coup.
Zappa
Costa centre au premier poteau. L'attaquant arrive lancé sans marquage. Il fait le break ensuite à la 60e à la récupération d'un bon centre au deuxième poteau. Il n'a plus qu'à pousser la balle au fond. Pazanić creuse encore plus l'écart en fin de match à la 83e et éteint les espoirs d'Anfield. Ça part d'une grosse erreur de Szoboszlai. Ça termine par le milieu de terrain. 3-0 donc pour l'Atalanta Bergame.
Il y avait un grand match aussi en Italie, Milan-Roma.
1-0 seulement, mais pour la Roma, c'est Gianluca Mancini qui a ouvert le score sur corner à la 17e minute. Ballon brossé par Dybala vers la tête de son défenseur central qui a fait la différence dans les airs. Mike Maignan est battu et ça fait donc 1-0 pour la S-Roma.
Daniele De Rossi qui fait du très très bon boulot avec la Roma. On passe maintenant à un match qui nous intéresse très particulièrement, c'est la rencontre entre Lille et Aston Villa.
Défaite malheureusement pour les nordistes, premier but sur le second corner pour les Villans à la 13e minute. Il est frappé à gauche par McGinn, Watkins est seul au deuxième poteau, sa tête piquée trompe Lucas Chevalier. Lille aurait pu bénéficier d'un pénalty à la 26e quand Thiago Santos prend le coude de Lucas Digne dans la surface, mais l'arbitre ne siffle pas. Le break est fait à la reprise sur un corner joué court pour Bailey qui centre fort. Reprise du capitaine John McGinn, 2-0 pour Aston Villa. Les Lillois réduisent l'écart in extremis à la 84e. But de la tête sur corner signé Bafodé Diakité. 2-1 pour Aston Villa.
Merci beaucoup. C'était un match magnifique, honnêtement. Beaucoup de rythme, beaucoup d'intensité. C'est une défaite frustrante pour vous, Benjamin, pour Lille ?
Très frustrante parce que pour le coup, ils ont fait un match dans l'état d'esprit très bon, je trouve. En première période, ils ont beaucoup de situations et ils doivent les concrétiser. Ils ne sont pas aidés non plus parce qu'en deuxième période, ils arrivent à marquer sur une belle reprise de Gudmundsson, si je dis pas de bêtises.
Oui.
Et pour un hors-jeu au millimètre, il est refusé. Donc,
cette fois, la VAR, elle a marché.
Pas comme
à Lisbonne.
Pas grand-chose. Je sais qu'Olivier est très tatillon. La ligne n'était pas bien placée, mais...
Bon, vous n'étiez pas d'accord ?
Je l'ai annoncé. Tu vas voir, le hors-jeu, il va être d'un millimètre. Et c'est le cas.
On avait une vanne pendant le match et on rigolait, on disait ça va arriver, tu vas voir la prochaine VAR, ça va jouer au millimètre et ça va pas louper.
On peut juste noter quand même que la situation qu'on a vue avec Marseille sur la faute dans la surface de réparation, elle est aussi pour Aston Villa. Il y a Benjamin André qui commet une faute, à peu près exactement la même faute, et là pareil, pas de VAR, rien du tout, et pénalty non sifflé. À mon sens, il y avait là aussi pénalty.
Philippe, vous étiez effrayé du niveau technique de cette rencontre entre Marseille et Benfica. Entre Aston Villa et Lille, c'était un très très grand match de Coupe d'Europe.
C'était un très beau match, effectivement. Il y avait de la densité, de l'intensité au milieu de terrain. Il y avait de la construction, il y avait peu de déchets. Malheureusement, le déchet, il est devant, il est dans la finition, on le sait. Cette équipe de Lille... Elle propose quelque chose de très intéressant depuis des mois maintenant, même depuis la fin de saison dernière. Il manque probablement une deuxième pointure devant parce que Jonathan David multiplie les efforts, les percussions. Parfois, il est peut-être un peu court au moment de la finition parce que c'est toujours lui qui fait les appels et que ça se paye à un moment donné. Voilà, si cette équipe avait un peu plus de moyens et qu'elle pouvait se renforcer avec un ou deux joueurs, ce serait redoutable parce que
toujours l'argent.
Il y a une vraie construction et on sent qu'il manque pas grand chose. Un petit peu d'expérience, un petit peu de talent dans la dernière passe devant et ça pourrait être une très belle machine.
Raymond, je sais que vous êtes attaché à notre football français, que vous l'aimez profondément. Quand on voit ce que Lille est capable de réaliser,
mais l'entraîneur est étranger.
L'entraîneur est étranger, bien sûr, mais c'est un club français.
C'est un handicap. Pour Raymond. Oui,
non,
vas-y.
Non, mais honnêtement.
Pas du tout.
Non, moi, je te taquine. Mais, t'aimes bien la Fonseca.
Non, mais j'ai dit, le problème, c'est qu'on le fait en rigolant et on estime pratiquement après que c'est vrai. Je veux dire que les qualités de ce que montre Fonseca, je veux dire, voilà, tout le monde peut que souligner que c'est un travail de qualité. On proteste, et je proteste en tant que président du syndicat, quand c'est des pipes qui arrivent. Et on a eu quelques Italiens qui ont prouvé leur qualité. Et là, on peut s'estimer.
Non, mais tu peux pas traiter un entraîneur de
à la place qui
mais déjà, tu peux pas.
Voilà, c'est tout.
Tu peux pas traiter un entraîneur étranger de pipe.
Ah non.
Ou alors, il faut que tu le dises aussi pour certains Français.
Non, tu es en train de dire entraîneur étranger pipe. J'ai pas fait la
même. Non, je dis tu ne peux pas.
C'est pas pour certains étrangers que ce sont
entraîneurs étrangers.
C'est parce qu'ils étaient mauvais.
Non, tu as dit pipe.
C'est tout.
Tu as dit pour certains.
C'était des mauvais.
Ah oui, mais alors.
Voilà, ils étaient mauvais.
Pour certains entraîneurs français, traite-les de pipe aussi.
Il y en a des mauvais.
Il faut que tu les cites aussi.
Je ne fais pas de différence entre les Français étrangers. On se bat contre les incompétents, pas contre les étrangers.
Pas contre les nationalités.
Ben non.
Ce débat autour de la pipe était très intéressant. Voilà. On va maintenant se recentrer sur...
Il faut que ça soit des deux côtés, les pipes.
Oui, bien. Excellent. Ouais. On va parler juste de Lille, quand même.
Il y a des longs, il y a des courts.
Olivier, vous n'étiez peut-être pas obligé d'en parler. C'est pas possible d'avoir les pieds mal placés comme ça. Je sais bien qu'il est tard et que les enfants dorment, mais un peu de décence.
Vous n'avez pas le droit.
Mais allez, quand même. J'aimerais vous entendre là-dessus. Raymond, d'avoir un club français qui est capable de faire cette performance face à Aston Villa qui cartonne en Première Ligue, c'est rassurant.
C'est rassurant, mais Lille est rassurant depuis un moment. Ils ont ce côté équipe européenne. Ils ont une solidité. Ils savent, eux, garder le ballon quand il faut le garder. Ils savent aller vite quand il faut aller vite. Ils sont solides. Ils sont solides derrière.
Ils ont des certitudes.
Voilà. On sent une équipe sûre d'elle, qui sait comment elle joue, qui sait comment elle va jouer. Donc, qui peut faire ses joutes européennes contre n'importe quelle équipe. Je veux dire, après, peut-être que, comme tu disais, il manque un peu de talent devant, une aide en plus.
Non, ça, c'est quelqu'un. Philippe, parce que Zegrova et Jonathan David, je trouve que c'est
oui,
pas mal.
Oui, mais je veux dire, quelqu'un qui puisse aider, remplacer, qui a un niveau...
Oui, à un moment, peut-être le faire souffler,
pour pouvoir changer de temps en temps.
Ce soir, t'as un ou deux, quatre qui ont un peu failli. Jonathan David, Lenny Yoro, c'est un petit peu en dessous de ce qu'ils peuvent donner sur des grands rendez-vous. C'est peut-être ça aussi qui fait que sur ce match-là, tu le gagnes pas.
Attends, tu joues
une belle équipe,
cette équipe Aston Villa qui est quatrième du championnat.
Ah, c'est une très très grosse équipe.
C'est une grosse équipe qui en général met tout le monde en difficulté. Et l'intensité qu'ils ont mis dans ce match-là.
Ah oui, il y a ça. Ça, c'était intense.
On n'a pas beaucoup l'habitude dans le championnat français. Ouais. Ce combat et ces courses et ces batailles, ils ont résisté, je trouve.
Villa, c'était bien. Villa a grandement respecté les Lillois parce qu'ils ont très vite vu qu'ils avaient du répondant en face dans le jeu.
Pour Unai Emery, la Coupe d'Europe, ça rigole pas.
Après l'ouverture du score, ils sont redescendus. Ils étaient beaucoup en phase défensive. Ils ont laissé les Lillois venir. En fin de première période, il était temps que la mi-temps arrive, on le sentait qu'Unai Emery était très tendu. Et surtout, ce qu'il faut souligner, parce qu'on parle beaucoup de l'aspect mental et parfois de la faillite des clubs français, quand t'es mené 0-2 en Angleterre, en Coupe d'Europe...
À Villa Park, oui.
Il y en a de nombreux exemples de clubs français qui ont coulé. Là, Lille n'a pas perdu son football, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas rués à l'abordage, quitte à prendre le troisième et à annuler toute leur chance pour le match retour. Ils ont continué avec leur précepte de jeu. Ils ont marqué ce but, comme le soulignait Benjamin, malheureusement refusé pour un léger hors-jeu. Ça ne les a pas perturbés. Ils ont continué. Ils ont fini par avoir gain de cause. Et ça, c'est extrêmement rassurant pour la suite. Moi, j'attends vraiment ce match retour parce que là, pour le coup, si vous me posez la question sur est-ce que je suis
confiant,
J'ai vraiment envie de mettre une pièce sur un exploit.
Eh bah, ben tu vois, c'est marrant parce que moi c'est l'inverse.
On est pareil.
Eh ben moi c'est l'inverse. Moi j'ai plus mais peur. Je vais te soutenir, moi. J'ai plus. Non mais j'ai beaucoup. Non mais c'est. Ah, non oui. Mais je te promets, j'ai beaucoup plus peur du retour de Lille à Aston Villa parce que par tout ce que tu viens de dire de l'équipe Mauroy, ouais. Qui est en face.
Parce que c'est une vraie équipe.
Et voilà. Alors que tu vois, Benfica me laisse pas du tout cette impression. Tu vois, c'est marrant quand même les sentiments qu'on peut
avant
avoir.
Avant de poursuivre sur le
différent.
Débat des clubs français en Coupe d'Europe, parce qu'on en dira un mot, parce que ça fait quand même 3 matchs, 3 défaites. Virginie, qu'est-ce qu'on gagne ce soir?
Regardez ce joli maillot des Lillois, signé par plusieurs joueurs. Alors, pas tout le groupe, hein, forcément, mais il y a quand même 15 signatures, donc c'est plutôt c'est pas mal.
Est-ce qu'on gagne les morceaux de.
C'est le maillot
de
Lille, hein.
Est-ce qu'on gagne les morceaux de gaffeur avec ou pas?
Non. Mais ça, c'est parce qu'on n'a pas le droit de montrer des marques.
De faire de la pub.
Je le rappelle.
Bien. C'est très joli comme ça. Voilà. Merci beaucoup.
À gagner
Virginie.
Sur ton Twitter de l'équipe du soir.
Juste président, je le disais, 3 rencontres allées. 3 défaites pour les clubs français. Est-ce que vous redoutez le zéro pointé? Ou vous voyez quand même une équipe française faire le remontada?
On ne peut pas l'occulter, quoi. Hein, je veux dire, les 3 matchs semblent possibles. Tu peux avoir le Grand Chelem, tu peux tout avoir, quoi. Je ne dirais pas que c'est du 50-50. C'est le PSG qui me paraît bizarrement le plus mal placé dans.
Ah, vous pensez?
Ben oui, parce que Barcelone, je trouve qu'ils ont du jeu, ils ont des individualités. Il y a des individualités. Il est dans 6 jours le match. Dans quel état psychologique Donnarumma va être dans 6 jours? Tu vois, Mbappé, je sais pas, il a un réveil. À un moment, ça va sonner.
On va en parler dans quelques instants.
Ouais. Et bon, les autres, ils me paraissent quand même
plus à même.
Ouais.
Mais des trois.
Allez-y, Olivier.
C'est quand même les Lillois, même si j'ai dit que j'ai pas
pour
eux.
Mais c'est quand même
eux. C'est quand même eux où on a les plus de certitudes dans le jeu. Ouais. Paris, on est tous en train de dire, mais on n'arrive toujours pas à comprendre. Mmh. Quand tu changes de composition d'équipe systématiquement à tous les matchs, il y a un moment, c'est compliqué. Et Marseille, on l'a expliqué par tous les problèmes. C'est quand même Lille qui a la plus de cohérence dans le jeu. Ouais, c'est clair. Ouais.
Ça veut pas dire que c'est eux qui ont le plus de chance.
Mais non, c'est ça qui est terrible.
C'est la beauté du football.
C'est ça qui est terrible.
Virginie, on revient à vous, si vous le permettez. On va poursuivre votre minuit info. On va parler de ce qui s'est passé. Et là, on va perdre le sourire, puisque Burgos a été totalement honteux et scandaleux envers Lamine Yamal. Et je crois qu'il a été renvoyé.
Il a été viré de Movistar, oui, pour ses propos racistes. Pendant l'échauffement d'avant-match, le technicien argentin a prononcé cette phrase en parlant du jeune attaquant du Barça. S'il échoue dans sa carrière, il pourra toujours finir à un feu rouge. Qu'il pourrait toujours jongler pour mendier de l'argent, lui qui a grandi dans un quartier populaire de Catalogne. Alors il a présenté ses excuses après que les deux équipes aient boycotté les interviews de la chaîne espagnole au coup de sifflet final, mais il a quand même été remercié par la direction ce matin.
Dans un quartier populaire, tu dis en Catalogne, tu parles de Yamal.
Oui, pas de Burgos.
Oui, parce que Burgos, il est argentin. Et lui, dans un quartier, à mon avis, encore plus populaire. Le problème de Burgos, qui était le gardien de River Plate, tout ça et tout... Je suis pas sûr qu'il y ait de méchanceté ou quoi, mais il est lourd, quoi. Enfin, il est devenu lourd d'ailleurs, parce qu'avant il était comme ça, quoi. C'était un gardien de but.
Là c'est scandaleux et ce renvoi est bien sûr largement mérité.
Il a voulu faire un mot, c'est raté.
C'est raté.
Je pense pas qu'il soit profondément raciste, mais.
Il a été renvoyé. On va maintenant parler de Raphaël Varane, des nouvelles qui sont pas bonnes.
Il a été touché la semaine dernière lors de la défaite de Manchester United contre Chelsea. Il avait d'ailleurs dû quitter la pelouse avant la mi-temps. Les Red Devils annoncent aujourd'hui une blessure musculaire et une absence de plusieurs semaines, en précisant que le champion du monde français espère être de retour avant la fin de saison en mai. Donc peut-être... une fin de saison pour Raphaël Varane.
C'est terrible parce que ça s'enchaîne quand même pour Raphaël Varane et on sait qu'il en a beaucoup parlé de ses soucis physiques et qu'il en souffre énormément. On va maintenant passer au tennis, 8e de finale de Monte Carlo et Humbert qui est en quart.
Il s'en est sorti, oui, dans ce 8e face à Lorenzo Sonego. Ça n'a pas été facile. L'Italien l'a poussé dans ses retranchements, porté par le public en plus qui exultait à chaque faute du Français. Il a tenu bon et tenu tête surtout pour l'emporter en 3 manches, 5-7, 6-3, 6-1. Il finit fort pour obtenir la qualif et il jouera Casper Ruud pour une place en demi.
On va maintenant passer à Philippe Sanfourche. Enfin, en tout cas, il ressemble à Philippe Sanfourche qui, lui, joue du côté de Roy Malmaison. C'est Djokovic qui déroule chez les favoris.
Le Serbe a surclassé Muzzetti et file en quart de finale, loin du scénario de l'an dernier où l'Italien l'avait éliminé en 8e. Cette fois-ci, la logique a été respectée malgré le fait qu'il ait été mené 3-1 d'entrée. Il a haussé son niveau pour recoller, passer devant, prendre le set et le match. 7-5, 6-3. Il affrontera Alex de Minaur pour une place en demi. Ça ne passe pas en revanche pour Daniil Medvedev, éliminé par Khachanov après un nouveau craquage. Le Russe a balancé sa raquette vers le fond du court. Il a aussi reçu un point de pénalité après avoir perdu ses nerfs lors d'un changement de côté. Il s'est énervé très fort contre l'arbitre. Il s'incline dans ce 8e sur le score de 6-3, 7-5.
Allez, on passe maintenant au basket. Monaco, ça brille ou ça brille pas?
Ah, ça brille, ça continue de briller, même la
Roca
Team.
Merci.
La Roca Team s'est quand même fait une belle frayeur ce soir face au Bayern. Elle a failli se faire cueillir sur le fil après avoir mené de 24 points. Mais c'est bien elle qui remporte ce dernier match de la saison régulière et qui s'assure une place dans le top 3 du classement. Victoire des Monégasques 89-85, portée par Alpha Diallo qui a marqué 20 points. Ils auront l'avantage du terrain en quart de finale.
Allez, Mercato, cette fois, c'est pas foot, c'est pas l'OM, c'est du vélo.
Des rumeurs de transfert circulent depuis plusieurs jours à propos du jeune coureur de la Groupama FDJ, Lenny Martinez. Ah. Son contrat arrive à échéance à la fin de la saison et des médias affirment que le Français de 20 ans se serait déjà mis d'accord avec l'équipe Bahrain Victorious. Son manager, Marc Madiot, aimerait bien garder son poulain, mais il admet qu'il est difficile de lutter contre la puissance financière des équipes étrangères. On l'écoute.
Coûte 40% plus cher en France qu'à l'étranger. Donc après, les moyens ne sont pas les mêmes. Les objectifs des partenaires, on est axé sur un retour sur investissement. Donc on est dans quelque chose de réfléchi, de pensé. Et on fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Et on essaie d'utiliser au mieux les budgets que l'on a. Et après, c'est clair qu'on est face à une concurrence particulière. Quant aux coureurs, ils sont aussi majeurs et vaccinés pour savoir ce qu'ils doivent faire et savoir faire les choix qui leur semblent le meilleur pour leur devenir ou leur avenir ou leur construction de carrière. Donc chacun voit midi à sa porte.
Toujours très compliqué ces débats parce qu'on veut tous gagner plus d'argent. Vous aussi, Virginie, je suppose.
Bien sûr,
comme tout le monde.
Classe. Non,
carrément.
Mais c'est mon chef.
Bon, on va passer maintenant à Wout van Aert. Pas une bonne nouvelle pour lui.
Oui, mais c'est pas le banquier.
Non, Wout van Aert est forfait pour le Tour d'Italie. Malheureusement, il n'est pas remis de sa grave chute sur à travers la Flandre il y a 2 semaines. Le coureur de Visma Lisobike, victime d'une fracture d'une clavicule et de 7 côtes en plus d'une contusion à un poumon, l'a annoncé aujourd'hui via une vidéo postée sur ses réseaux sociaux. Il ne prendra pas le départ le 4 mai prochain pour donner à son corps le temps de bien récupérer. Il sera remplacé dans l'équipe des Frelons par Christophe Laporte.
On termine ce Minuit Info, Virginie, avec le décès d'O.J. Simpson.
Il est mort aujourd'hui d'un cancer à l'âge de 76 ans. Il avait été nommé MVP de NFL en 1973 avant d'être accusé du double meurtre de son ex-femme et d'un ami de celle-ci. Son procès, qualifié de procès du siècle, avait captivé le monde entier. Il a finalement été acquitté. Un verdict qui continue de susciter la controverse près de 30 ans après.
Merci beaucoup Virginie,
merci,
c'était parfait. Comme toujours, on va saluer Candice Roland qui était à Lisbonne et qui nous a offert les réactions et ses analyses. Merci beaucoup Candice, je crois que vous étiez mise en lumière par Corentin Roland.
Tout à fait, exactement. Voilà, c'est la team Roland.
Merci beaucoup.
Les papillons, ça explique.
Exactement. Excellente soirée à vous du côté de Lisbonne. Et rentrez tôt. La nuit peut être mouvementée à Lisbonne. Voilà. Il y a beaucoup de bonnes adresses.
Bon. Tout le monde n'est pas comme vous, Giovanni.
J'attends vos messages, Giovanni.
Allez, merci beaucoup. Bonne soirée à vous, Candice. L'atmosphère va se tendre sur le plateau de l'équipe du soir, puisqu'on va ouvrir le chapitre Kylian Mbappé, sa sainteté, le génie du football français. Il n'a pas été très bon hier face à Barcelone. Il a même eu la note de 3 dans le journal L'Équipe, votre quotidien préféré. Et Vikash Dorasso, dans les colonnes de L'Équipe, justement, a déclaré ceci. L'équipe n'est pas construite autour de Mbappé. Sous-entendu, Luis Enrique, mais peut-être Kylian Mbappé dans les mauvaises dispositions. Alors, le match raté de Kylian Mbappé hier face à Barcelone, le principal responsable, c'est Mbappé ou Luis Enrique? Habillage à la parisienne. Non, habillage à la Mbappé. Magnifique. Philippe Sanfourche.
C'est une question qui est très difficile. J'ai mis longtemps à répondre. Mais j'ai quand même envie de pointer du doigt la responsabilité de l'entraîneur.
Luis Enrique. Benjamin Quarez.
Je suis mon camarade, pareil.
Voilà, dis donc, vous faites la paire ce soir.
Mais je l'aime beaucoup.
Olivier Rouillet.
Mais bien sûr que c'est le joueur.
Bien sûr que c'est le joueur. Raymond Domenech.
Si un joueur n'est pas bon, c'est d'abord lui le premier responsable.
Donc, c'est Mbappé.
Donc, c'est plus Mbappé.
Alors là, je pense, Président, qu'on a un super duel et une nouvelle fois royale. Vous pouvez agiter le bout de votre nez.
Allons-y.
J'ai donc la team Luis Enrique. C'est la paire Juarez-Sanfourche qui commence.
Je vais laisser Benjamin parce que j'ai peur de prendre toute la.
De tout le temps.
Tout le temps si je commence.
Du côté rouillé, Domenech.
Je vais cadrer tout ça.
C'est toujours Olivier qui commence. Donc pour vous, le principal responsable, c'est le joueur. À vous, Olivier Rouillet.
Et je ne peux même pas comprendre comment on puisse mettre la faute sur l'entraîneur. Je pense qu'un joueur tel que Mbappé, c'est lui qui dirige, c'est lui qui commande, c'est lui qui argumente, c'est lui qui apporte toutes les solutions. C'est clair, net et précis. Alors après que l'entraîneur décide de, peut-être d'une tactique un peu spéciale, mais quand même, c'est l'homme fort du Paris Saint-Germain. C'est sur lui que les ballons vont systématiquement. C'est à lui de prendre les choses en main. C'est à lui de s'éclairer. C'est à lui de se libérer d'un espèce de carcan ou je ne sais quoi. C'est à lui de montrer ce qu'il est. Et quand vous montrez ce que vous êtes, quand vous êtes un très grand joueur, automatiquement, le reste suit. Le reste va avec vous. C'est tout simple. C'est pas l'entraîneur. L'entraîneur, il a donné... Pardon.
Excuse-moi, mais bon.
Il était emporté par la foule, le côté solaire. Il pensait à Michel Platini. Pardon, la réponse de Benjamin Juarez.
Je n'occulte pas la responsabilité de Kylian Mbappé sur cette rencontre, parce qu'évidemment, il est passé complètement au travers. Mais pour autant, je m'interroge aussi sur la gestion que Luis Enrique a pu avoir de Kylian Mbappé ces dernières semaines. Évidemment, je ne peux pas oublier qu'il l'a fait sortir à la mi-temps des matchs, à l'heure de jeu. Peut-être qu'il l'a un peu joué. Alors, est-ce que c'est sa faute? Est-ce que c'est la faute de la direction? La question se pose. Moi, je trouve que dans la gestion du cas Kylian Mbappé, ça n'a pas forcément été efficace sur les derniers mois. Maintenant, sur les choix aussi des hommes hier, le choix de mettre Marco Asensio, avec lequel il n'a pas été aligné depuis très longtemps à la pointe de l'attaque, je doute aussi du choix de ce choix-là. Est-ce que ça met dans les meilleures conditions ton meilleur joueur? J'en suis pas convaincu.
Il vous reste un peu de temps, Raymond, profitez-en.
Oui, déjà, ceux qui ont vu Marco Asensio à la pointe de l'attaque, il faut qu'ils me disent quel match ils ont vu. Parce que
non, mais...
je ne l'ai pas vu. Hein. Il est bien là. Il est au milieu de terrain. Non, il joue au milieu de terrain justement pour laisser la possibilité à Mbappé de venir de son côté pour aller dans l'axe. Le problème, c'est que le Barça avait bien fermé le côté et que je trouve que, et tout ce que j'ai entendu, vous êtes très sévère avec Mbappé sur ce match-là.
Désolé, Raymond. Pour conclure, c'est
ma faute. Je pourrais le développer.
C'est ma faute. Philippe, allez-y.
Il n'a pas été bon, c'est un fait. Mais ce type de joueur, ces grands joueurs qu'on attend, il faut qu'ils soient mis dans les meilleures conditions. Et Luis Enrique fait tout pour lui pourrir la vie depuis quelques semaines, avec évidemment l'appui de la direction. Et donc quand on sait qu'on a ce genre de joueur, qu'on n'aura peut-être plus pendant plusieurs saisons, pour quelques mois, on met tout en œuvre pour aller vers ce Graal qui est la Ligue des Champions. Or, on met tout en œuvre pour lui mettre des bâtons dans les roues. Et quand effectivement Luis Enrique, en plus avec son dogmatisme, s'échine à ne pas vouloir mettre un vrai attaquant de pointe,
c'est terminé.
On prend la catastrophe.
Philippe, super duel animé. Super duel aussi dominé par Olivier Rouillet qui a fait tout tout seul. Si vous pensez que le principal responsable c'est Luis Enrique, vous votez pour la paire Benjamin Juarez, Philippe Sanfourche. Si vous pensez que c'est pour le coup Mbappé le principal responsable, c'est pour Monsieur Domenech.
Soulignez bien le principal.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Écoutez bien le principal.
Olivier Rouillet, vous allez sur l'équipe Connect pour voter. Président. Votre arbitrage.
Alors, je suis curieux déjà d'entendre Raymond qui nous dit que Mbappé n'a pas été si mal. Hein, c'est ça que tu vas argumenter. Tu vas
non, j'ai dit que vous avez été très sévère avec lui.
D'accord. Alors ça, voilà. Je suis curieux de l'entendre.
Ouais, on aura le
et
temps
ce qui
d'en
est
parler.
Formidable avec Mbappé, c'est que chaque fois qu'il passe à travers, et ce n'est pas la première fois, loin s'en faut, et passe ces derniers temps. Quoi, ça remonte à 2 ans. Quoi. Il est en chute libre. Et ses buts ben, font passer la pilule. Il y a toujours un pénalty qui traîne, évidemment. Le PSG est une équipe dominante. Alors, hop, à un moment, il va marquer un but ou des choses comme ça. Et à mon avis, cela lui dessert parce qu'il a toujours une excuse, Mbappé. Et là, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant parce qu'avant, c'est Messi, c'est Neymar qui prenait. Et puis après, est arrivé Messi. Alors, c'était encore plus pratique, si tu veux. Tu avais ce paravent, si Mbappé passait à travers. Mais Messi et Neymar, ils prenaient un peu Verratti, ils prenaient une balle perdue aussi pour la forme,
quand ils jouaient.
Hygiène de vie ou des choses comme ça, ou truc. Bah, tu vois. Et derrière ça, Mbappé, les deux matchs de l'équipe de France, il va falloir m'expliquer aussi où il est passé complètement.
Allemagne-Chili.
Allemagne-Chili.
Donc c'est la faute de Deschamps.
Ah,
c'est ça.
Voilà, il va falloir m'expliquer que Didier Deschamps, avec l'assentiment du président de la Fédération française de football, met des bâtons dans les roues de. Ça, bien évidemment. Non, mais bien évidemment. Attends, je laissais parler, mais bien évidemment. Tout le monde est c'est jamais de la faute de Mbappé. Le fond du problème. C'est que vous avez placé Mbappé à un niveau stratosphérique qu'il n'a pas. Mbappé a des limites, ok ? Alors chaque fois, ça sera « oui, mais parce que le... » Attends, mais tu te rends compte comment était Neymar à l'âge de Mbappé ? Tu te rends compte comment était Messi, pas à l'âge de Mbappé, à 25 ans, jusqu'à 30 ans ? C'est depuis 4 ans qu'il a décliné un peu Messi, qu'il ne peut plus passer machin truc. Et tu penses que les joueurs adverses n'avaient pas une tactique anti-Messi ou des choses comme ça. Le problème de Mbappé, qui a en plus une totale liberté quand même sur le terrain, qui peut jouer dans l'axe. Quand tu ne vois pas Haaland, c'est un avant-centre. S'il va sur le côté, il est perdu, sauf si c'est sur un contre et qu'il y a un petit peu d'espace. Donc le registre est limité. Si son équipe passe la balle, la balle, la balle, lui, à un moment, tu ne le verras pas. Mbappé, il faut aussi qu'il se montre ou quoi, quelque part. Moi, je me souviens du match, par exemple, contre Monaco, où le PSG mène 5-2, gagne 5-2, je crois, ou quelque chose comme ça.
Le match allait au Parc en début de saison.
Voilà, au Parc. Mais tout se passe sur le côté droit, quoi. Mais Mbappé, il se montre jamais, quoi. Et tu sais que Mbappé, de toute manière, déjà, bon, il ne défend pas, il faut, machin, mais c'est Mbappé. Bon, monsieur, tout le monde défend, mais Mbappé, bon, il n'y a pas de problème, il ne défend pas. Mais Mbappé... Mais ça fait un temps énorme, je veux dire, qu'il passe complètement à côté. La première partie du groupe, je veux dire, contre Newcastle, machin, il a fait combien de bons matchs, Mbappé ? Non, mais il n'a pas dedans, non. À Dortmund, il a été pas mal. Il n'a pas eu trop de réussite, il y a eu la VAR, il a refusé un but. Tout. Mais tous les trucs, tu ne voyais pas Mbappé. Alors, arrêtez de me dire Luis Enrique ou cette histoire de traumatisme qui ne le fait pas assez jouer.
Philippe va vous
parce
répondre.
Parce que ça, c'est votre truc. Alors, il ne le fait pas assez jouer, c'est pour ça.
Non, c'est que c'est sélectif, en fait.
Parce que j'ai lu Dorasso. Non, c'est pas sélectif.
Tous les matchs. Mais t'as oublié le match à la Real Sociedad. Tiens, c'est marrant, il a mis un doublé.
Et il a mis deux doublés. Voilà. Et ben voilà. Il a mis deux buts. Très bien. Mais c'est tout ce que tu attends de Mbappé sur 9 matchs de Ligue des Champions.
Il est juste à 40 buts depuis le début de saison.
Il a mis 2-3 pénalties sur les 40 buts ?
Ouais.
Ah, ben tiens, t'es pas bon en comptabilité. Non, il n'a pas mis 2-3 pénalties. Il a mis un certain nombre de pénalties. Et c'est normal qu'il mette des buts. Je veux dire, une équipe dominante comme le PSG.
On parle pas de 15 buts,
c'est normal.
On parle de 40.
Mais c'est normal qu'il mette. Il met 4 buts contre Gibraltar. D'accord. C'est normal. Il met déjà le 10e des buts contre Gibraltar. D'accord. Arrêtez avec ces putains de stats, ces putains de buts. Vous me dites que c'est le meilleur joueur du monde. Tu ne le vois pas. Il ne fait rien. Tu le vois au vélodrome. Il est encore heureux qu'il le sort à l'heure de jeu. Il ne fait rien. À l'équipe de France, il ne fait rien.
Tu parles de Messi et de Neymar. Ils n'ont pas fait des mauvais
Philippe,
matchs
allez-y.
En carrière aussi.
Mais, attends, mais Messi. Messi et Neymar, quand ils avaient son âge, et même plus que son âge, mais ils étaient omniprésents dans un match comme ça. Ils ne pouvaient pas avoir, parce qu'on lui a mis 3, on est gentil, moi j'ai remis 2 ou 1 par rapport à son statut, parce que tu es toujours plus dur avec quelqu'un qui a un certain statut. Mais il n'a rien fait, rien. Messi, qu'il ne fasse rien à son âge, impossible. Il y a des matchs où tu le voyais peut-être un peu moins, mais il se bougeait. Mbappé, il est là. Et quand il a la balle maintenant, et maintenant je vais aller plus loin, est-ce qu'il n'y a pas un souci par rapport à lui, quoi, je veux dire. Tu as dit quelque chose de très juste hier, j'ai regardé l'émission. Moi, il y a deux choses que je remarque chez Mbappé. Un, il la demande tout le temps dans les pieds désormais. Autrefois, il essayait quand même d'aller dans la
tout
profondeur.
Le temps.
Et je me demande s'il n'a pas peur de quelque chose, s'il n'a pas une cheville un peu endommagée, quelque chose qu'on ne saurait pas. Et la deuxième chose, tu l'as dit, il fait lourd. Voilà. Et j'ai remarqué ça aussi. Je me suis dit, et là j'ai fait un podcast que je vous recommande sur l'équipe.fr en fin d'après-midi, où je parle notamment de ça et de tas d'autres choses sur ce match. Je trouve qu'il a forci énormément, ce qui est bien, parce que forcément par rapport au gosse qu'il était à Monaco et où il était comme ça, par rapport au contact, les épaules contre épaules, les chocs en face, c'est pas des petits bébés et tout, qui prennent de la puissance encore et de la force, si ça fait pas du tort à sa vélocité, si tu veux. Et là, maintenant... Je trouve qu'il y a quelque chose, il ne passe plus, quoi, je veux dire. Ou très peu.
Un peu dans ton sens, ou pas
suffisamment.
Ou pas tout à fait.
Ouais. Juste dire, Mbappé, c'est 10 pénaltys
dans ce
Philippe,
match
cette saison, toute compétition confondue.
Dans le match.
Non, c'est 10 pénaltys sur 40 buts, quoi.
Dans le match,
avec l'équipe de France, avec
l'équipe, il y a plus de 40 buts. Vous estimez qu'il a été nul, qu'il a été en dessous tout, qu'il a rien fait.
Par rapport à son statut.
Je dis. Ah oui, non, mais si on juge par rapport à.
Ah ben, évidemment.
Je veux dire, par rapport à ce qu'il a fait dans ce match-là. Je dis, il y a un moment décisif dans ce match-là. Tu dis qu'il va plus en profondeur.
Oui.
Quand Vitinha il prend le ballon à 50 mètres du but et qu'il court avec le ballon, Mbappé il est parti plein de balles, plein de max. S'il lui met le ballon là, le match est changé et le match de Mbappé est totalement changé parce que il aurait fait ce qu'on attendait de lui. On l'a mis dans cette situation-là.
Il marque derrière. Parce que dans les face à face.
Non, il n'y avait plus de face à face.
Ah bon, il n'y avait plus de gardien, il n'y avait plus rien.
Il y avait le gardien.
Ah.
Il ne les rate pas beaucoup quand il est comme ça en pleine vitesse.
Parce que il ne rate pas beaucoup de face à face.
La semaine dernière,
le dernier quand c'est Mandanda, d'accord.
Il ne lui met pas. Et je rappelle quand même sur le but de Dembélé. C'est lui qui va s'arracher pour aller sortir le ballon.
Encore
parce que Dembélé lui met une
Oui, non, mais encore,
encore heureux.
Comment encore heureux?
J'ai dit, non, mais enfin, je veux dire, s'il se bat pas sur ce ballon pour s'arracher.
Non, mais tu peux pas me dire que d'un côté il se bat pas et qu'il fait rien et que de l'autre côté encore heureux qu'il se soit battu.
Ah, parce que tu trouves qu'il s'est battu sur ce match? Non, sur le ballon, d'accord. Mais il lui faut qu'il y ait le ballon. Honnêtement. Sinon, il bouge pas.
J'ai été surpris quand j'ai entendu les commentaires. Ouais. J'étais au match.
Ouais.
Et tout ce que j'ai entendu sur lui, bah moi, je l'ai pas ressenti.
Tu l'as trouvé
je
bien.
L'ai vu se replacer. Ouais. Je l'ai vu aller à la tête. Au combat.
Oui, demain il neige. Bon, il est allé à la tête.
Il a été pire dans le comportement. Ouais. J'ai été aussi Raymond. J'ai fait tous les matchs du PSG.
Dans le comportement, c'est-à-dire.
Non, mais dans l'attitude. Là où je suis d'accord.
Non, mais il a été pire que ce match.
Il a été pire dans l'attitude.
Je vais dans tout sens, Raymond.
Plaît l'attitude. Mais parce que lui, en marchant,
mais hier il a été
à Saint-James Park, il a été désastreux dans l'attitude. C'était pas le cas hier au parc.
Je vais dans. Non.
Exactement. Dans ton sens.
Il s'est battu. Il a essayé.
Mais tu trouves que c'est
suffisant? Il a pas réussi son match.
Tu trouves que c'est suffisant?
Est-ce que c'est suffisant pour un joueur de ce niveau-là?
De ce statut,
on peut toujours dire que c'est insuffisant.
Ah bah oui.
Mais on ne peut pas tout lui mettre sur la tête dans ce match-là.
Je ne te dis pas que c'est lui qui a fait perdre le PSG. Mais là, on parle de lui. Et lui, son match, c'est totalement insuffisant. Et il arrive malheureusement, tu peux passer à côté d'un match, il arrive malheureusement à la suite d'une succession de matchs.
C'est celui qui fait perdre le match, c'est Berardo. Là, moi, tu. Beraldo, je veux dire.
Même son nom. Mais celui qui doit te faire gagner, c'est Mbappé. Et il ne fait rien pour te faire gagner. Mais il n'y a pas de problème. Ce n'est pas la faute de Mbappé.
Ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Tout le monde aura la parole. Tout le monde aura la parole. On continue de parler de Kylian Mbappé. Il y aura aussi la revue de presse de Virginie Saint-Cily sur comment la presse étrangère a vécu le match d'Mbappé. Restez bien avec nous. Ça sera enflammé, mais dans la joie et la bonne humeur. De retour pour la dernière partie de l'équipe du soir, toujours en compagnie de Didier Roustan, de Philippe Sanfourche, de Benjamin Croirez, d'Olivier Rouillet. Ouvrez les yeux, Olivier, c'est pas encore le
temps d'aller se coucher.
Raymond Domenech et de l'excellente, la brillantissime Virginie Saint-Cily qui va corriger une erreur que j'ai commise. Oui. Je présente mes plus plates excuses. Marseille ne joue pas ce week-end.
Voilà, vous avez dit que Marseille jouait ce week-end, mais Marseille ne jouera pas ni Paris ni Lille parce qu'ils sont dans un entre-deux de matchs de Coupe d'Europe. Donc les trois matchs ont été reportés au 24 avril.
Merci beaucoup Virginie. Wow. On poursuit ce débat passionnant autour de Kylian Mbappé qui n'a pas franchement été bon hier au Parc des Princes. Il y a eu un échange animé entre Raymond Domenech et Didier Roustan. Juste,
puisque le résultat du duel.
Du super duel. Ouais, on a encore le temps. Philippe,
on a encore des arguments.
Ouais, vous essayez de répondre à Didier tout à l'heure sur le côté, sur l'impact de la décision de Kylian Mbappé. De son départ depuis qu'il l'a annoncé à son président et de la gestion de Luis Enrique. Clarifiez vos propos. Allez-y.
Après, on ne saura jamais, ou on le saura peut-être, mais tardivement, le vrai du faux sur comment ça a fuité, quelle était la volonté de chacun. Mais il est certain que l'entrevue entre la direction et Kylian Mbappé, qui a scellé le départ du joueur, est intervenu trop tôt et son annonce trop tôt et que c'est un fardeau qu'il doit porter jusqu'à la fin de saison. Après, je continue de penser que le Paris Saint-Germain, son actionnaire principal, le Qatar, qui, on le rappelle, va passer quand même en l'espace de quelques mois d'une équipe où tu as Messi, Neymar et Mbappé à zéro. Quand tu as un projet qui n'est pas un projet foot, mais qui est un projet d'exposition mondiale, forcément, tu l'as mauvaise. Mais ça, c'est leur problème de gestion. Et derrière, ils sont en train de se pourrir toute la fin de l'histoire avec Kylian Mbappé. Alors, il ne s'agit pas de faire l'aura d'Mbappé et de créer sa légende. Ils s'en foutent. OK, on est d'accord. Mais enfin, ça coïncide quand même avec leur trajectoire collective personnelle. C'est-à-dire que là, le Paris Saint-Germain avait peut-être quelque chose à jouer. Et j'ai le sentiment que ce club ne met pas en œuvre tout ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'on est passé de Mbappé la star à Luis Enrique la star. Et Luis Enrique, on lui laisse faire tout et n'importe quoi. Donc moi, je veux bien qu'on tombe sur Mbappé, mais la responsabilité pleine et entière de ce non-match hier, du fait que tu te bouffes toute une mi-temps parce que tu as un égo surdimensionné à la tête de ton équipe, un mec qui a décidé simplement d'expliquer à Xavi sur le banc d'en face
donc,
que
c'était un enfant. Il fait partie des pipes, alors, des
pipes minutes, pour
non, mais enfin,
il
Luis
a décidé
Enrique,
d'expliquer
donc
à Xavi que c'était un gamin et qu'en gros, c'était lui l'homme du Barça et qu'il a paradé.
Ça,
a
c'est, fait de la, coq, c'est de la provocation.
Il a fait le coq devant, les médias
oui,
espagnols
et alors,
en oubliant.
Non, mais là, tu es en train de parler d'un entraîneur
il n'a pensé qu'à lui.
Qui est complètement bidon et qui ne pense qu'à lui.
Il n'a pensé qu'à lui.
tous ces résultats, tous ces machins.
Avec Asensio milieu droit, avec Kanguini qui avait vaguement fait un bon match contre
Asensio dans l'entrejeu pour essayer
de ne pas mettre ni Zaïre Emery ni Ugarte. C'était les deux seuls joueurs qui ont un tout petit peu d'impact au milieu de terrain et qui sont capables de se mettre une
le mauvais match de Mbappé. Le mauvais match de Mbappé.
Il a mis en danger son équipe. Et après, que Mbappé n'ait pas été bon, c'est un fait. Mais c'est un micro-débat par rapport à l'incidence de Luis Enrique sur le non-match.
Il y a Olivier Rouillet qu'on n'a pas entendu encore.
Le meilleur joueur du monde, c'est un micro-débat par rapport à la performance d'Olivier.
Non mais Philippe, tu as complètement raison, ça c'est pas le problème. Mais ça c'est le problème Enrique. Le problème Mbappé, je ne vois pas l'intérêt d'Mbappé de faire des productions comme on a vu hier soir, un peu meilleures d'après Raymond ou mauvaises comme nous on l'a vu, de faire ce genre de production jusqu'à la fin de l'année, de la fin de la saison, jusqu'au moment où il va quitter le PSG. Il a tout intérêt, à mon sens, il a tout intérêt, personnellement, à être au-dessus de tout ça et à continuer à être le soi-disant meilleur joueur du monde. Que sa direction...
Et tu sous-entends qu'il
pas être bon ? Attends,
non.
Surtout pas. Mais je pense que sa direction, son entraîneur, c'est, à mon sens, c'est un autre problème. Et moi, j'ai le sentiment que ça ne doit pas l'impacter. Parce qu'il est au-dessus de tout ça. S'il n'est pas au-dessus de tout ça... Non mais attends.
Ça finit par impacter un peu.
Je vais jusqu'au bout. S'il n'est pas au-dessus de tout ça, il va au-devant de beaucoup de...
De grandes déconvenues.
Parce qu'il doit être plus... il doit être plus fort. Il doit être psychologiquement beaucoup plus fort que tout ça. À la limite, tu dois te dire... Je vais aller jusqu'au bout. Je vais aller gagner la Ligue des Champions. Parce que j'en ai les moyens, je suis capable de le faire. Et si c'est ça, mais c'est le dieu à Paris, tu t'imagines? Donc lui, il n'a aucun intérêt à se débattre dans ce genre de petits problèmes.
À un moment donné, c'est-à-dire que si tu prends, on peut juste comparer avec l'équipe de France, parce que ça fait 7 ans qu'il est au Paris Saint-Germain. On peut quand même dire que depuis que Didier Deschamps a donné les clés du camion dans le jeu, dans sa manière, en lui donnant le brassard. Ça se passe mal en équipe de France ?
Mais tu n'as pas la même opposition.
Tu as deux matchs.
Mais tu n'as pas la même opposition. Tu n'as pas la même opposition. Les équipes nationales, maintenant, les 9 dixièmes du temps, elles sont faibles et tu es dans une équipe largement supérieure. C'est la Ligue des Champions, la référence. Et en Ligue des Champions, dès que c'est compliqué.
Les Pays-Bas, c'est faible, par exemple, dans ton parcours de qualification. Les deux matchs contre les Pays-Bas, c'est faible. Et il n'est pas du tout déterminant contre les Pays-Bas.
Mais il peut être déterminant de temps à autre. Je ne suis pas là à te dire. Ce soir, que Mbappé est un mauvais joueur, je te dis que Mbappé est beaucoup moins fort que vous l'imaginez. Ça fait un. Et la deuxième chose, c'est
mais
que
on
quand.
Pas.
Mais je laisse pas terminer.
Et que s'il n'est pas bon.
Ce n'est pas à trouver une excuse d'Enrique, que Ugarte n'est pas là et tout, c'est qu'il n'est pas bon. Et donc, c'est pas grave, mais qu'il assume. Moi, je ne suis pas l'anti-Mbappé, je vois les choses.
Ah non, bah non, je ne suis pas anti-Mbappé.
Non, je ne suis pas anti-Mbappé, parce que c'est trop facile de dire. Quand on critique un joueur en argumentant, c'est trop facile de dire parce qu'il ne l'aime pas. Alors, on ne dit rien, tu vois.
Allez-y, Olivier.
Mais non, mais juste, lisez ce qu'on nous propose, que Kylian a dit le 7 avril. 2024, c'est vachement important. C'est le moment pour les grands joueurs, donc je suis prêt. Et bien sûr, comme d'habitude, je ne vais pas me cacher. Voilà, c'est clair, il le dit. Il est un grand joueur, il doit assumer, il doit pas se cacher.
Il marche pas sur nous non plus, il distribue pas les petits pains.
Je t'ai dit pas, messieurs,
c'est pas parce qu'il a conscience qu'il va faire quelque chose.
Il a conscience de cela, donc c'est à lui, et dans des situations comme hier soir, c'est à lui de trouver les solutions, c'est à lui de se mettre au-dessus, point à la ligne.
Mais non, c'est parce qu'il n'a pas eu Ugarte.
Tu les prends tous.
Parce que Luis Enrique,
les Maradona, les Platini, les Zidane, les machins,
mais ils sont là, ils sont toujours là.
Allez, messieurs, on doit juste aller voir Virginie Saint-Cily pour la revue.
On a le Télégraphe qui cible un Kylian Mbappé éclipsé par Rafinha. Le journal parle d'une performance parisienne absolument décevante. The Athletic tacle Donnarumma en disant que la confiance du gardien semble bien brisée. Le Mundo Deportivo s'est forcément réjoui du succès du Barça au Parc. Pour l'occasion, sa une est en français très bien en précisant que Xavi a surpassé Luis Enrique dans la bataille tactique. Et puis AS titre Champions Liga pour souligner la soirée parfaite du football espagnol. Deux victoires, celle du FC Barcelone et celle de l'Atlético.
Merci beaucoup Virginie. Il y a quelqu'un qui s'est lâché lui sur Kylian Mbappé, c'était sur RMC, c'est Christophe Dugarry, on l'écoute.
Hier, ce qu'il a montré, c'est le pire du football et le pire de l'attitude que peut avoir un joueur de haut niveau. Je ne parle pas d'un joueur de son niveau. de haut niveau. C'est-à-dire qu'on a le droit de rater des matchs, on a le droit de rater des passes, on a le droit d'être nul. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais le comportement, l'attitude qu'a eu ce garçon hier est tout simplement et tout bonnement scandaleuse. C'est un scandale pour le foot, c'est un manque de respect, c'est une trahison pour ses supporters dans un stade qui était chaud bouillant, pour ses partenaires, pour les gens qui lui font confiance depuis des années, pour les gens qui le payent, pour les gens qui l'apprécient, et pour le foot, pour un quart de finale de Ligue des Champions. Mais tu as craché au visage de la Ligue des Champions, un quart de finale que soi-disant tu rêves de gagner avec ton club, soi-disant, mais tu as craché sur la compétition, une chance de jouer dans un stade aussi beau que le Parc des Princes, devant le Barça, un quart de finale aller de Ligue des Champions. Ton attitude, l'attitude qu'il a eue sur ce match-là, est une honte absolue.
Il était énervé, Christophe Dugarry. Benjamin, est-ce que vous êtes d'accord ou non avec les propos du consultant d'RMC ?
Je le trouve un peu incisif et un peu virulent à mon goût. Après, je le rejoins sur un point, c'est qu'effectivement, on attendait beaucoup plus et on l'a tous dit de Kylian Mbappé hier. Et évidemment, dans l'attitude générale, j'ai pas senti le leader de l'attaque parisienne, le leader de cette équipe, qu'il doit être sur ce genre de rendez-vous. Effectivement, il l'avait annoncé, tu as bien fait le relever, Olivier, on l'a entendu dans les médias, et à partir du moment où tu annonces quelque chose, il y a un effet d'annonce et on attend de toi que tu sois le patron. Je comprends la déception de Christophe Dugarry, comme je comprends la déception des supporters parisiens hier au Parc des Princes, parce qu'ils étaient tous unanimes à la sortie du parc. C'était le joueur qui était pointé du doigt comme la grande déception de la soirée. Il n'a rien fait, il n'a pas existé. Effectivement, voilà, après... Les termes employés sont quand même très très durs. T'as craché à la gueule de la Ligue des Champions. T'as trahi ton équipe. Moi je j'irai pas jusque là. C'est-à-dire que t'as trahi ton équipe. J'ai pas senti un Kylian Mbappé qui s'est défaussé, qui a dit en gros les gars, allez-y sans moi. De toute façon, j'en ai rien à faire. Non, j'ai pas vu ce joueur-là sur le terrain.
Non,
c'est
violent, mais bon, de temps en temps, à la radio, il se lâche ou des choses comme ça. Il n'y a plus qu'à espérer une chose, et moi, j'espère de tout cœur, parce que je ne suis pas un anti-Mbappé du tout, mais je crois être lucide par rapport à ses performances, c'est que il se distingue, que Paris se qualifie déjà au retour, et que lui se distingue, parce que, rends-toi compte, il y a quelque chose de fondamental, c'est que si tu es éliminé dans 6 jours, d'accord, Mbappé, il sera resté 7 ans au PSG. Et qu'est-ce qu'il aura laissé en 7 ans? Il aura battu tous les records de plein de choses et tout. Mais je trouve que au niveau sentimental, si tu veux, le lien avec les gens, une forme d'amour que tu peux avoir pour des joueurs ou des choses comme ça, eh ben, je crois qu'il laissera beaucoup moins que ce qu'il aurait dû laisser. Et ça, c'est pas innocent.
Et ça, c'est lié à sa personnalité. Et là, je te rejoins. C'est-à-dire que même s'il était capable de retourner la situation et qu'il gagnait la Ligue des Champions à la fin, sa personnalité, ce qu'il représente...
Non, mais ça sauverait ce qu'il peut l'être.
Ça
sauverait ce qu'il peut l'être. Et pour recevoir de l'amour et qu'il y ait de l'amour, c'est qu'il faut que tu donnes de l'amour, si tu veux. Et je trouve qu'il ne donne pas beaucoup d'amour. Tu comprends? Je pense que lui,
en tant que... C'est un autre débat, ça. C'est un tout autre débat, ça.
Ah oui, oui, oui.
Mais ça, débat sur l'amour plus tard, si vous voulez.
Ceci étant, Jo, quand même,
on peut... Pour
conclure. On peut quand même dire que...
Aïe.
Que Dugas... Merci, Raymond. Non, mais Dugas, il a été un petit peu excessif, quand même, dans ses propos.
Moi, je voudrais que vous arrêtiez de dire un petit peu excessif.
Il a été très excessif.
Scandaleusement excessif, agressif. De sa part, je trouve ça scandaleux de pouvoir, en étant joueur de haut niveau. Et ce qu'il a vécu, lui, il a été, je veux dire, il a été humilié, traité de tous les noms par tout le monde, par tout le public français, sur tous les stades. Oui. Que lui se permette de dire ça sur un joueur du niveau de Mbappé, je suis désolé.
Oui, c'est dommage.
Il n'a plus rien à dire.
Merci beaucoup, Raymond. On va maintenant passer au jeu.
Le fond, il a raison, mais sur la forme, c'est trop. Bon, on crache pas sur la gueule des gens.
Les jokers, c'est pour vous, président.
Eh oui, j'ai bon partout.
Exactement.
Et on a quand même 2 points, Raymond.
Le thème du quiz. J'ai joué à Benfica et en Ligue 1.
Ah, oh là.
À Benfica et en Ligue 1. Allez, premier joueur à découvrir. J'ai marqué cette semaine.
Di Maria.
Éliminé.
Ramos.
Non.
Éliminé. Oh merde. Oh pardon.
C'était lors du spectaculaire Real Madrid Manchester City.
Silva.
Bonne réponse de Raymond.
Ça y est, c'est fini.
Raymond, restez avec nous, s'il vous plaît.
C'est bon.
Ensuite, je suis
Raymond, c'est ton soir.
Champion du monde.
Di Maria.
Bonne réponse.
Il avait dit mal à faire.
Il avait le droit de lui couper le sifflet. Hein.
Oui. Pas encore, c'est pas peut-être encore. Toi. Qui,
il reste deux minutes dans le coup.
Allez, vas-y, 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 vas-y. Ah oui, si tu arrêtes chaque fois, vas-y.
Je signe à Marseille en 2017.
Moser.
Ah, dommage. En 2017.
Je reviens, je reviens, je reviens. Je reviens.
Je suis attaquant.
Je reviens.
Vitinha.
Éliminé.
Oh.
Ah non.
J'ai planté 16 buts en 50 matchs avec l'OM. Et enfin, je suis grec.
Oh, bah,
bonne réponse du président Roustan, ça fait un point. Allez, nouveau joueur à découvrir.
Ouais.
Je suis passé par le Paris Saint-Germain.
Vas-y.
Je suis un défenseur.
Ricardo,
Luis,
Ricardo.
Luis. Ricardo, vous ouais, avez dit ouais. C'est pas ça.
David Luis.
Bonne réponse de Benjamin Courage. David Luis, 3 points. Allez, je suis triple champion de France.
Le sosie capillaire de Virginie Saint-Cylie, mais ça ne va pas, non ?
Je suis champion de France.
Et j'ai joué à Marseille.
Je t'ai regardé.
Moser.
Bonne réponse, président. En Roustan, ça fait 3 points. Alors.
Je t'ai regardé.
J'ai porté le maillot du Real Madrid et du FC Barcelone. Je rappelle, j'ai joué à Benfica et en Ligue 1.
Figo.
Non, j'ai joué.
Non, mais il a joué en Ligue 1.
En Ligue 1. Ah, en Benfica et Ligue 1.
Ouais. T'as perdu.
Ouais.
Philippe et Emile. Je suis champion olympique 2004 avec l'Argentine. J'ai joué une saison à Monaco.
Morier. Non.
Ah oui, non.
J'étais attaquant. Je rappelle, j'ai joué au Real et au Barça. Champion olympique avec l'Argentine.
Saviola ?
Bonne réponse. Un point pour Benjamin Quarez. Il nous en reste. C'est le dernier, non, si vous voulez l'éliminer, ouais. Président.
Éliminé,
ce n'est pas très fair play.
Quand j'arrive au Paris Saint-Germain en 2017.
Éliminé là-bas. Ouais.
Je suis un espoir talentueux.
En 2017, je suis un espoir talentueux au Paris Saint-Germain.
Ouais.
Et il a disparu de la circulation.
Malgré mes 26 buts et mes 41 passes D, je ne me suis jamais imposé. Champion du monde en 2014, j'ai rejoint le Qatar cet été. 3, 2, 1, c'était Draxler. Victoire de Benjamin Quarez ce soir sur le quiz. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau rendez-vous de l'équipe du soir. Avant l'équipe de choc, l'équipe de Greg. Passez une belle soirée, une belle nuit sur la chaîne L'Équipe.